Vous êtes sur RTL.
Vicky qui va s'occuper de vous pendant 2h30. Bonjour Yves.
Merci de nous avoir accompagné Julien. Bonne journée à vous tous qui nous écoutez. J'attire votre attention ce matin sur notre séquence de 7h15, car le nombre de distributeurs de billets diminue en France. C'est un investissement de 90 000 euros pour nos banques et c'est toute une région qui peut être impactée lorsqu'ils disparaissent. Nous partirons donc dans le département de Loire-Atlantique, dans un village où ce sont les transporteurs de la Brinks qui font vivre désormais le distributeur. Et Christophe Ponzio nous donnera ensuite des chiffres passionnants sur la disparition du cash chez nos commerçants. La moitié des paiements se font en ce moment en fameux sans contact. À 7h40, l'invité politique d'RTL est ce matin Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Les négociations sur l'assurance chômage, le chômage partiel, la réforme des retraites et la situation de nos saisonniers sont au menu des questions d'Alba Ventura. Enfin, à 7h38, François Langlais, Pasteur et Sanofi ont déçu dans la course au vaccin. L'analyse de notre spécialiste dans l'Angleco. Nous sommes le mardi 26 janvier 2021. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Il y a des doutes ce matin sur l'efficacité du vaccin anglais d'AstraZeneca dont la mise sur le marché est attendue chez nous en fin de semaine.
Ouais, ses résultats sur les plus de 65 ans seraient quasiment nuls. La France en a pourtant commandé des millions de doses. Faut-il s'en inquiéter? On y revient dès le début de ce journal. Un masque qui, en plus de protéger, tue le virus. Mise au point par une entreprise toulousaine. Explication à suivre. La découverte dans le sud-ouest d'un vaste trafic de main-d'œuvre clandestine, des dizaines de Marocains employés sous de faux noms durant les vendanges. Nous suivrons également Arnaud Montebourg, plus que jamais en campagne. Et puis le succès du bioéthanol, ce carburant écolo, est surtout deux fois moins cher.
La politique, Olivier Bost.
Marine Le Pen veut son duo avec Emmanuel Macron en 2022.
Votre analyse dès la fin du journal.
RTL Matin.
Après Pfizer et Moderna, c'est le troisième vaccin attendu dans les prochains jours, celui du laboratoire britannique AstraZeneca, mis au point avec l'université d'Oxford. Il est déjà largement utilisé au Royaume-Uni et l'Union européenne doit normalement l'homologuer à son tour en fin de semaine. Normalement, car on apprend ce matin dans la presse allemande que son efficacité est largement remise en cause, notamment sur les personnes les plus à risque. À Berlin, les précisions de Blandine Milsan.
Le très sérieux quotidien économique Handelsblatt, citant des sources gouvernementales, explique en effet que ce vaccin ne serait efficace que de 8% sur les plus de 65 ans. Le quotidien Bild, de son côté, affirme que ce vaccin AstraZeneca, qui doit être autorisé en fin de semaine au sein de l'Union européenne, n'obtiendra donc pas d'autorisation pour les seniors de plus de 65 ans. Ce vaccin de l'entreprise britanno-suédoise devait compléter l'offre de BioNTech et de Moderna. Il semble plus simple à manipuler, n'exigeant pas qu'on l'entrepose à moins de 70 degrés. Mais vendredi, invoquant des problèmes de production, le groupe annonçait qu'il était obligé de réduire de 60% ses livraisons en Europe au premier trimestre, provoquant la colère de Bruxelles. Finalement, ceci explique sans doute cela.
Blandine Milsan, précisons qu'AstraZeneca justement a souhaité démentir hier soir ces informations, tout en maintenant le retard des livraisons. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour.
Ce vaccin, on en a commandé beaucoup?
Alors l'Europe en a commandé 300 millions de doses, plus 100 millions à confirmer. La France en attendait 5 à 8 millions dès le mois de mars, 44 millions au total. Clairement, on compte sur ce vaccin pour accélérer la campagne et augmenter la cadence.
D'autant qu'il est, par rapport aux deux autres, beaucoup plus facile à manipuler.
Énorme avantage, un frigidaire classique pour le conserver, finit donc le casse-tête logistique et les moins 70 degrés. Grâce à ce vaccin, les pharmaciens sont censés devenir les piliers de la campagne, tout comme les médecins généralistes qui espèrent eux aussi entrer dans la danse en vaccinant leurs patients dans leur cabinet, exactement comme pour la grippe. Autre avantage et pas des moindres, son prix autour de 2 euros la dose. Vous l'avez compris, avec le vaccin AstraZeneca Oxford, le gouvernement compte protéger en masse les plus fragiles, les plus à risque. S'il se confirme qu'il n'est pas efficace chez les plus de 75 ans, cela risque donc de compliquer tout le plan prévu. On en saura plus vendredi. L'Agence européenne du médicament délivrera son autorisation de mise sur le marché en précisant pour quelle population, quel âge, le vaccin doit être privilégié.
Merci Sophie Orange. Des nouvelles rassurantes en revanche du laboratoire américain Moderna, cette fois, qui confirme, lui, l'efficacité de son traitement contre le variant britannique du virus.
En attendant le vaccin, et on l'a compris, cela pourrait durer encore un peu, le port du masque reste toujours et encore la meilleure protection.
Il permet de stopper, vous le savez, les gouttelettes et les postillons, et c'est pour cette raison qu'il doit être changé régulièrement. Eh bien, une entreprise toulousaine vient de mettre au point un nouveau type de masque qui ne se contente pas de bloquer le virus, mais de le détruire. Patrick Tégéraud, expliquez-nous.
Alors il ressemblera au traditionnel FFP2 et non seulement il vous protégera, mais en plus il tuera les virus. Jacques Boyer préside l'entreprise et il est bien sûr enthousiaste.
Ça veut dire que le masque est décontaminé. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un masque qui pourrait éventuellement être transmetteur d'un virus, parce que c'est un déchet le masque lui-même, quand vous le touchez, etc., ben là il sera propre, il aura anéanti son virus.
Évidemment, la recette du traitement biocide est top secret. On sait seulement que la recherche avait commencé bien avant l'épidémie.
On voulait absolument faire un traitement qui permette en milieu hospitalier de lutter contre les maladies nosocomiales. Et on a poussé les études pour se protéger contre les menaces biologiques qui sont dans le domaine militaire. On a constaté également qu'on tuait des bactéries, on tuait les virus. Donc c'était remarquable. On a fait des essais sur le coronavirus et on a eu de très bons résultats sur le coronavirus.
Reste à vérifier qu'il est absolument sans danger.
On veut être certain que vous n'avez pas justement une allergie, des boutons. Et donc ça, cette vérification, on est en train de la faire.
Le masque tueur de virus s'appellera le Biox et il devrait être commercialisé d'ici quelques mois. Il coûtera un petit peu plus cher, mais il devrait être utilisable plus longtemps.
Le Biox, donc, pour ce nouveau masque fabriqué à Toulouse et que nous présentait ce matin Patrick Tégéraud. Un chef d'entreprise sur deux estime ne pas être en capacité de supporter un troisième confinement, selon une enquête réalisée par la Confédération des petites et moyennes entreprises. Un tiers d'entre eux estime même que leur affaire aujourd'hui ne survit que sous perfusion de l'État. Des décisions seront prises cette semaine, confirme Jean Castex, sans doute demain au cours du Conseil sanitaire de défense. Mais d'après l'entourage d'Emmanuel Macron, le chef de l'État estime que le prix à payer d'un reconfinement est exorbitant. Selon les informations de RTL, la piste d'un entre-deux, un confinement uniquement le week-end, est sur la table. Les indicateurs restent préoccupants. Le chiffre des 3000 malades en réanimation vient à nouveau d'être franchi.
RTL, 7h06, ce n'est plus vraiment une surprise. Il a de plus en plus de mal à le cacher. Arnaud Montebourg veut revenir en politique.
Pour les meubles, le miel, les glaces, tout ça c'est bien. Mais l'ancien ministre, chantre du Made in France, devenu chef d'entreprise, se verrait bien revenir tout en haut de l'affiche. Pour l'instant, les sondages lui donnent 5% d'intention de vote sous les couleurs du PS. La route est longue, mais il y croit. Déplacement de 2 jours en Bretagne et un détour hier par l'usine Nokia de Lannion sous le coup d'un plan social. Marie-Bénédicte Allaire l'a suivi.
Devant un feu de palette, Arnaud Montebourg harangue les salariés de Nokia Lannion.
J'en ai assez de voir mon pays se casser la figure morceau après morceau. Je n'ai que la légitimité d'un ancien ministre qui a vu ce qui s'était passé sur Alstom, qui a vu que ça s'était reproduit sur Alcatel. Donc maintenant, ça suffit.
Sa solution, utiliser les milliards du plan de relance pour recréer un champion français des télécoms. Il a le soutien du député LR, Marc Le Fur.
Sur un certain nombre de sujets, on peut travailler ensemble. Si Arnaud Montebourg est sur des positions gaullistes, je ne vois pas pourquoi je m'y opposerais.
Jean-François, Sylvain ou Gildas ne croient pas à l'homme providentiel. Mais si l'ancien ministre peut aider à sauver leurs emplois, pourquoi pas?
Il n'y a plus beaucoup de pistes. Lui peut en être une. Bon, après, est-ce qu'il a une arrière-pensée? Je sais pas trop.
Une candidature présidentielle, par exemple.
Cette question, elle se posera, certainement. Mais pour l'instant, on n'en est pas là.
Montebourg y pense.
S'il y a des solutions, on peut pas les manquer.
Mais non.
Bon, ben, merci, messieurs. Merci. L'encouragement, on va tâcher. Hein.
En attendant, il teste ses idées et son pouvoir d'attraction.
Marie-Bénédicte Allaire. Le ministère de l'Intérieur va proposer 10 000 places en stage ou en contrat d'apprentissage. C'est Gérald Darmanin qui l'annonce ce matin dans les colonnes du Parisien, au lendemain de l'ouverture du Beauvau de la sécurité. Priorité sera donnée aux jeunes issus des 60 quartiers prioritaires, dits de reconquête républicaine. Une manière de retisser les liens avec la police.
Une filière de travailleurs clandestins démantelée dans le sud-ouest. On vous explique tout cela dans quelques instants sur RTL. Bonne journée à tous.
RTL Matin.
RTL 7h09, la suite du journal de Dominique Tenza. 5 hommes viennent d'être mis en examen par le parquet de Montauban. Ils sont soupçonnés d'avoir mis en place une vaste filière d'immigration clandestine.
Des dizaines de Marocains employés pour des missions saisonnières sous de faux noms, sans contrat et payés au lance-pierre. Alice Moreno, la petite affaire de ces trafiquants était bien rodée.
Oui, des dizaines de migrants marocains obtenaient de faux contrats de saisonniers et leurs tickets pour la France. Chacun devait verser 10 000 euros aux trafiquants. Une fois sur le territoire français, ces immigrés étaient envoyés sur différentes exploitations agricoles, sous de fausses identités, payés une misère non déclarée. Les exploitants agricoles, eux, n'y voyaient que du feu. Ils pensaient avoir affaire à une entreprise de sous-traitance légale et versaient d'importantes sommes d'argent aux trafiquants qui leur envoyaient ces travailleurs illégaux. Sur une période de 2 ans, 250 immigrés sans papier auraient ainsi été exploités et les trafiquants auraient ainsi gagné 1 600 000 euros. Mais la semaine semaine dernière, la police aux frontières de Toulouse a interpellé 5 hommes dans la région de Montauban. Ils ont été mis en examen. L'un d'entre eux est placé en détention provisoire. 4 sont sous contrôle judiciaire. Des dizaines de milliers d'euros ont été saisis sur leur compte bancaire.
Alice Moreno du service police-justice de RTL. Ils sont en plein essor chez nous en France. Les biocarburants séduisent de plus en plus d'automobilistes. Et c'est une information RTL. Le nombre de stations qui distribuent le super éthanol E85 a bondi de 32% l'an dernier. Une alternative à l'essence, écolo et moins cher. Le compromis parfait, Christophe Bourreau.
À la pompe, ils sont de plus en plus nombreux à venir faire le plein d'E85, comme Wilfried qui a installé un boîtier de conversion sur sa Mercedes. Et forcément, à 70 centimes le litre, il n'y a pas photo.
Un plein, ça me fait 55 euros. Parce que sinon, si je mets de l'essence normale, ça me fait une fois et demi le prix en plus.
Et désormais, 2305 stations distribuent de l'E85, soit une sur quatre, plus 32% d'ouverture en un an, au rythme quasiment d'une par jour. Agnès Bernard est en charge du carburant pour le réseau Total.
En 2 ans, on a triplé le nombre et on en a ouvert à peu près 250 sur l'année 2020. On est aujourd'hui à peu près à 4% des volumes essence qui se fait en E85.
Un E85 moins cher, mais aussi moins polluant.
Par rapport à un essence classique, c'est 40% de réduction d'émissions de CO2 et près de 90% d'émissions de particules fines.
Et dans les prochains mois, le nombre d'installations de pompes devrait encore s'accélérer. Il faut dire que la demande ne cesse d'augmenter avec un prix aussi bas comparé à celui de l'essence et du gazole qui lui a grimpé de plus de 10% depuis novembre.
Christophe Bourreau.
Dans 6 mois, doivent débuter les Jeux Olympiques de Tokyo. Auront-ils lieu malgré les démentis? Les doutes persistent.
Et dans le contexte sanitaire, c'est bien compréhensible. Une certitude, les athlètes qui choisiront d'y participer n'auront pas d'autre choix que de se faire vacciner. Sur ce point, Denis Masseglia, le patron du sport olympique français, met doucement mais gentiment la pression.
La vaccination sera faite sur la base du volontariat. Mais pour celles et ceux qui ne souhaiteront pas se faire vacciner, il faut savoir que les précautions de participation seront extrêmement difficiles. Voilà, moi en tout cas, j'espère que tous les athlètes français seront dans cette optique-là. Pour ceux qui ont, pour des raisons éthiques, pas envie d'être vaccinés, puis après il y a ceux qui ont peur, on essaiera de faire preuve de maximum de pédagogie. De temps en temps, ça marche.
Au micro de Jean-Michel Rascol. On peut se vacciner si on veut, mais pas de vaccin, pas de sport. On connaît désormais l'adversaire des Bleus en quart de finale du Mondial de handball. La France affrontera demain soir la Hongrie. Coup d'envoi 20h30. Et puis le centre Georges Pompidou à Paris restera fermé pendant 4 ans, le temps nécessaire. Près de 4 ans, le temps nécessaire pour réaliser les travaux de rénovation et de désamiantage indispensables. Les ascenseurs, les célèbres tuyaux, tout doit être revu. Les travaux vont débuter en 2023. Ce musée national consacré à l'art moderne, loin de faire l'unanimité lors de son inauguration, fêtera cette année ses 44 ans.
Les courses, elles ont lieu à Cannes-sur-Mer.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 7, le 4, le 3, l'As, le 16, le 8 et le 2, la dernière minute, c'est l'As, ficelle du Houlet.
C'était le journal de Dominique Tenza. 7h13, la politique avec vous Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous avez appris beaucoup de choses lors des vœux à la presse de Marine Le Pen, m'avez-vous dit.
Oui.
Expliquez-nous ça.
Nous pourrions reprocher beaucoup de choses à Marine Le Pen, de ne pas travailler, d'être toujours aussi peu entourée, d'être encore très vague sur sa méthode pour sauver la France. Nous pourrions lui reprocher beaucoup de choses, mais pas d'avancées masquées. Marine Le Pen, hier, a presque tout dit de sa stratégie pour l'élection présidentielle.
Alors, allez-y, parce que vous nous intriguez.
Ce n'est pas révolutionnaire, hein, très neuf. Marine Le Pen veut, par-dessus tout, installer son duel. Je suis même tenté de dire son duo avec Emmanuel Macron. Le sondage Harris Interactive de ce week-end, sur un premier tour de la présidentielle, l'a conforté, requinqué même. La présidente du Rassemblement National arrive en tête dans toutes les configurations. 26 ou 27% des intentions de vote, devant Emmanuel Macron, 23-24%, et loin devant Xavier Bertrand à 16%. La gauche dispersée est dans les choux. Marine Le Pen a bien insisté hier sur le fait que ce n'était pas tout à fait nouveau. Depuis 4 ans, explique-t-elle, les sondages la donnent au second tour. C'est vrai, mais à la même époque, avant la précédente présidentielle, en janvier 2016, avant son échec en 2017, elle était exactement au même niveau, entre 25 et 29% des intentions de vote.
Alors, ce duel duo, comme vous le dites, c'est donc sa stratégie présidentielle ?
Tout à fait, parce que l'univers politique se divise à ses yeux en deux catégories. La vie politique, c'est simple, ça tient en deux mots, avec deux candidats pour les porter. C'est le choix entre le mondialisme et la nation, résume-t-elle. D'une formule, tout le reste est effacé. Deux mots, l'un est péjoratif, le mondialisme d'Emmanuel Macron, et l'autre nous unit et nous protège, c'est la nation pour Marine Le Pen. Pour compléter cette stratégie, la présidente du Rassemblement National fait comme tout le monde, elle a lancé une plateforme internet pour recueillir des idées.
Donc elle croit encore un peu plus à ses chances en 2022.
Alors 4 ans après 2017, elle doit faire encore la démonstration que si l'affiche sera la même l'année prochaine, ça ne finira pas pareil. Elle doit montrer qu'elle a plus d'énergie quand certains se demandent encore parmi ses proches si elle en a vraiment envie. Marine Le Pen doit aussi convaincre que son aventure n'est pas une aventure solitaire et hasardeuse. Là aussi, tout reste à faire. Hier, elle a lancé un appel aux bonnes volontés pour travailler à ce qu'elle appelle un grand rassemblement. Elle s'est dit prête à accueillir ceux qui choisissent la nation. Rien de tout cela ne fait encore un programme, mais ça ne fait qu'un an que Marine Le Pen est candidate à la présidentielle. Et il reste encore un an avant les choses sérieuses, avant ce duel qu'elle espère tant avec Emmanuel Macron.
Olivier Bosc, que l'on retrouve sur l'application mobile d'RTL. Notre rendez-vous politique tout à l'heure, c'est avec Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui est l'invitée d'Alba Ventura, travailleurs saisonniers, chômage partiel, télétravail, les réformes à venir, tous ces sujets seront abordés dès 7h40. Dans un instant, avec les fermetures d'agences bancaires, les distributeurs de billets de banque viennent parfois à manquer. Nous allons faire le point avec notre brigade de l'actualité et nous irons au Célier. C'est en Loire-Atlantique où la commune vient de s'équiper d'un nouvel appareil confié à la Brinks. Restez avec nous.
RTL Matin, 7h-9h30,
avec Yves Calvi.
Le nombre de distributeurs automatiques de billets baisse d'année en année et cette disparition est souvent le signe de la désertification de nos communes. Beaucoup de municipalités se battent d'ailleurs pour conserver leurs distributeurs. La société Brinks lance une initiative pour installer et mettre en service des distributeurs appelés Point Cash. La commune du Célier, en Loire-Atlantique, tout près de Nantes, vient de s'équiper et Patrice Gabart s'est rendu sur place.
Cela faisait 16 ans que les Célariens attendaient un distributeur automatique de billets. Alors depuis son installation par la Brinks et sa mise en route mi-novembre, Michel et Bruno l'utilisent très régulièrement.
Bah c'est le côté pratique, mettons, si vous voulez chercher vos suites le dimanche ou faire 2-3 babioles et tout, ça évite de sortir la carte et tout. Moi, je paye en liquide, même dans le car et tout. Comme vous voulez faire pour payer dans le car avec une carte bancaire. Ici, c'est plein de retraités, tout ça, ils marchent au cash. Hein. Non, on est bien content de l'avoir, notre distributeur, nous.
Ça fait un bouton qu'on attendait, quand même. Chacun gère son budget comme il veut. Moi, je sais que j'ai besoin de liquide au début de semaine et ça me fait ma semaine et je gère mon budget en fonction de ça. C'est plus que pratique, c'était indispensable. Sinon, si on veut retirer du cash, faut qu'on change de commune, il y a 6 à 10 km à faire.
Dans son atelier boutique de confection textile, Émilie Lecomte salue également l'installation de ce distributeur à l'arrêt de bus en plein centre-bourg.
Lorsque moi, par exemple, mon appareil à carte bancaire ne fonctionne pas, parce que ça peut arriver, ça dépend du réseau, ils peuvent me régler autrement que par carte ou par chèque.
Ce que confirme Frédéric, patron du bar tabac PMU La Terrasse, avec tout de même quelques réserves techniques.
Nous, on met un minimum de 5 euros de paiement par carte. Il y a des gens qui n'ont pas assez de liquide, donc c'est bien d'avoir un distributeur. On a aussi des itinérants qui viennent sur la place faire des petits marchés, comme des primeurs, des galettes, des pizzas. Et ils n'ont pas toujours des appareils à carte ou ils prennent pas les chèques. Donc c'est bien d'avoir un distributeur aussi pour eux. Bah, le problème, c'est que plusieurs personnes qui s'en font avaler leur carte. La fente, elle est trop petite et ils n'arrivaient pas à récupérer leur carte rapidement.
Effectivement, cet appareil a avalé plusieurs cartes, au moins 5, peut-être plus. Philippe Morel, le maire de la ville.
Le problème de cette carte, quand elle est avalée, du fait que c'est pas une banque, que c'est la Brinks, la carte, elle est forcément annulée. Elle sort de très peu du distributeur et s'ils sont pas agiles pour la serrer et l'enlever, elle se fait avaler. C'est le problème.
Le service communication de la Brinks explique qu'il s'agit d'un dispositif anti-fraude propre à tous les appareils, mais dont le réglage demande sans doute des adaptations et le transporteur de fonds y travaille. En attendant, c'est déjà un énorme succès.
Les mouvements sont plus importants que même que je l'avais moi-même estimé. On le sent parce que d'abord, un dimanche soir, le distributeur était vide, ce qui prouve que ça avait bien fonctionné. C'est de faire vivre les centres-bourgs, qui est aussi une difficulté des fois. Parce que le problème de la personne qui part alignée pour retirer un peu d'argent, c'est qu'elle va chercher son pain, elle va faire ses courses au magasin qui est là-bas, et que le fait de les garder ici, ben, ça permet de faire marcher notre commerce local.
Avec en plus le tourisme de passage dans la ville où a vécu Louis de Funès, un service public propre à redynamiser le centre-bourg, qui coûte entre 1 000 et 800 euros par mois à la ville, car plus le DAB est utilisé, plus son loyer diminue.
intéressant et formidablement révélateur. Merci beaucoup Patrice Gabart pour ce reportage. Alors on l'entend avec ce genre d'initiative, trouver de l'argent liquide semble aujourd'hui de plus en plus difficile en zone rurale. Bonjour Christophe Ponzio.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
De notre brigade RTL, bien entendu. D'abord, est-ce que nos distributeurs, Christophe, nos DAB, comme on les appelle, deviennent vraiment une denrée rare ?
Bah, rare non, hein. La France s'en sort d'ailleurs plutôt bien en Europe. Un peu plus de 50 000 distributeurs automatiques de billets sont toujours répartis sur le territoire. En revanche, ce qui est vrai, c'est que leur nombre diminue depuis 5 ans. 2 000 points de retrait d'argent en moins au dernier décompte de la Banque de France. Pour autant, l'institution explique que 99% de la population habite dans une commune équipée d'au moins un DAB ou dans une commune voisine située à moins de 15 minutes en voiture.
Et évidemment, ces 15 minutes, c'est une moyenne, Christophe.
Oui, et c'est aussi pour ça que l'effet d'une disparition d'un distributeur de cash est massif en zone rurale. En tout, 600 000 Français doivent faire plus d'un quart d'heure de trajet pour aller retirer de l'argent. Cela peut même monter à une heure. Donc là, au marché, si vous n'avez plus de monnaie, franchement, vous abandonnez vos carottes sur les étals plutôt que de prendre le volant. Et ça arrive assez souvent, puisqu'en tout, 60% des communes ne sont pas équipées de distributeurs d'argent.
Mais pourquoi ces distributeurs disparaissent de nos rues ?
D'abord à cause de la fermeture des agences bancaires, moins 6% en 10 ans. Et puis surtout, le prix, 90 000 euros d'investissement minimum et ce n'est pas rentable pour les banques.
Alors est-ce que la hausse des paiements par carte bancaire, notamment le fameux sans contact, joue aussi un rôle ?
Totalement, le paiement sans contact représente désormais la moitié des paiements, notamment pour acheter votre pain ou votre journal. Conséquence, l'an dernier, les retraits aux distributeurs ont baissé de 20% au déconfinement.
Ça veut dire que c'est la fin de l'argent liquide, Christophe ?
Pour payer vos courses de plus en plus, oui. En revanche, avec la crise, le nombre de coupes pure en circulation a doublé. Et là, c'est de l'argent liquide, de l'épargne pour les bas de laine. Ce n'est donc pas du tout la fin. Et c'est pour cette raison que les transporteurs de fonds veulent se substituer aux banques pour distribuer les billets et profiter de ce marché.
Passionnant. On vous retiendrait que le paiement sans contact représente désormais la moitié des paiements dans nos magasins. Merci beaucoup Christophe Ponzio de la brigade RTL. Prochain rendez-vous après le journal de 8h où nous ferons le point sur les retards de production et de livraison de nos vaccins en Europe avec Sophie Orange. Dans un instant, la météo de Louis Baudin, les grosses têtes de Laurent Ruquier et la pépite musicale d'Anthony Martin.
RTL Matin avec Yves Calvi.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h24, bonjour Anthony.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Veuillez procéder à votre pépite matinale, s'il
Alors,
vous plaît.
On va sourire un peu. Ah. Il y a 3 mois, Eddie Mitchell nous racontait dans l'émission Laissez-vous tenter qu'il devait un temps former le trio des vieilles canailles avec Johnny Hallyday et Michel Sardou. Ça ne s'est pas fait, Johnny était trop fâché contre Michel Sardou depuis une sortie maladroite sur sa fille Jade. Et curieusement, avant la fâcherie, ils n'avaient même pas chanté ensemble pendant la première tournée des Enfoirés, à laquelle ils participaient pourtant tous les trois. Mais je vous propose tout de même d'écouter ces vieilles canailles-là, puisque le trio Sardou, Hallyday, Mitchell a déjà existé, le temps d'une chanson sur l'album « Salut » de Michel Sardou, sorti en 1997. Le titre est « Collector », Eddie et Johnny sont dans les chœurs. Sur l'échelle du kitsch, on est assez haut. Cette chanson s'appelle « Mon dernier rêve sera pour toi ». On est en 1997 et dans ce texte co-signé avec Didier Barbelivien, bien Michel Sardou se met dans la peau de Bernard Tapie, alors bien empêtré dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Oui, c'est notre pépite bien. Du jour. Eddie Mitchell, Johnny Hallyday et Michel Sardou ensemble.
Ils ont pris mon bateau, ils ont lu mon courrier, ils m'ont pris en photo, ils m'ont tout fait signer. Ils ont pris en potion toutes les choses de ma vie et mis dans un carton mon micro, mes tapis. Je les ai vus satisfaits du devoir accompli, les médias, le palais, puis tout ce qui s'ensuit. Mais mon amour, ils l'auront pas. Mon dernier rêve sera pour toi. Mais mon amour, oh, ils l'auront pas. Mon dernier rêve sera pour toi.
Saxophone, s'il vous plaît. Il y a tout, hein. C'est parfait.
C'est du second degré ou pas ? C'est ça que j'arrive pas à percevoir.
J'espère qu'ils se sont amusés.
J'espère aussi.
Voilà, les vieilles canailles telles qu'elles auraient pu exister, c'est pas la chanson du siècle.
Non.
Mais c'est un document. Michel Sardou, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell réunis sur ce titre. Mon dernier rêve sera pour toi. Une des chansons de l'album Salut de Michel Sardou. Michel Sardou, qu'on salue parce qu'il est né un 26 janvier, c'est son anniversaire aujourd'hui.
Exactement, il a 74 ans aujourd'hui.
suis pas sûr que ce soit le meilleur cadeau qu'on puisse lui faire d'exhumer cette chanson. Enfin,
vous savez quoi, il a énormément d'humour. Donc oui, voilà, exactement. Je suis parfaitement rassuré. Merci beaucoup, Anthony. À demain matin. Nos grosses têtes sur l'application mobile RTL. Vous pouvez aussi retrouver la radio 100% grosses têtes, que du rire, les meilleurs moments de l'édition. Et en attendant de les retrouver cet après-midi dès 15h30, voici les coulisses du retour de Daniel Picouli dans l'émission.
On va être contente de revoir Daniel Picouli, Christine Bravo.
Bah, c'est lui qui devrait être content de me revoir, c'est moi qui l'ai lancé.
Non mais t'as lancé tout le monde.
Il me doit tout, il me doit tout.
En tout cas, il a bien vieilli, lui. Je dis ça parce que tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, vous m'avez glissé dans le cul d'oreille. Je ne sais plus comment il s'appelle, le gars, là. Non mais comment vouliez-vous que je vous réponde, Christine, alors qu'il était assis à côté de moi, elle me fait... discrètement, comme elle sait le faire, oui, vous savez. Oui. Oh, tu es là, toi. Déjà, rien que ça, on comprend qu'elle ne sait pas qui c'est. Ah, oh, tu es là, toi. Elle voit bien que c'est quelqu'un qu'elle connaît.
Mais il avait un masque.
Et qu'elle n'a pas revu depuis je ne sais pas combien de temps. Et là, elle me glisse dans l'oreille. Dis-moi, c'est qui ? J'ai oublié son nom.
Oui, et pour
devant Picouli.
Pour être très précis, moi, j'étais en face de Picouli et Christine a posé la question, c'est qui le gars en face de l'autre con ? Moi aussi, j'ai été un peu blessé dans l'histoire.
Laurent Ruquier, ses grosses têtes, cet après-midi de 15h30 à 18h, Ariel Dombal, Christine Ockrent, Stevie Boulet, Michel Faux, Isabelle Mergo et Daniel Picouli accompagneront Laurent. Bonjour Louis Bonnet.
Bonjour Yves.
Il est 7h28, on va faire un point sur notre météo, je vous écoute.
Ben, elle est froide, hein, notre météo, comme prévu ce matin, comme le ciel a souvent été dégagé cette nuit, ça a rayonné, et donc ça nous donne des températures négatives quasiment partout. Hein. Ce matin, ça arrive assez rarement, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il n'y a qu'en bord de mer où on a quelques valeurs positives, près de la Manche, ou encore sur les bords de la Méditerranée, localement descend jusqu'à moins 10 degrés à Chamonix, moins 7 au Puy, moins 6 à Guéret-Romorantin ou encore Aurillac. On est souvent entre moins 2 et moins 3 degrés. Alors, ce ciel dégagé de ce matin, oui, ça ne va pas durer puisque petit à petit, on va avoir un ciel nuageux qui va gagner d'ouest en est. Alors, ce matin, plutôt dans le nord-ouest et cet après-midi, dans une large moitié ouest, le ciel sera nuageux. Mais toujours sans pluie, pas besoin du parapluie, sauf sur la Bretagne et le Cotentin où là, c'est vrai, les précipitations vont revenir. J'ai même vu quelques flocons là, du côté des Monts d'Arrée. Enfin, c'est bien de la pluie cet après-midi dans ces régions. Ailleurs, du temps sec, de plus en plus de nuages, sauf près des Pyrénées et dans le sud-est, où là, le temps sera encore ensoleillé. Alors, après ces fortes gelées matinales, les températures resteront hivernales cet après-midi.
Oui.
4 à 6 degrés dans la moitié nord, pas plus. Jusqu'à 8 degrés parfois sur les côtes bretonnes. 6 à 9 degrés dans les régions du sud-ouest et 10 à 13 degrés près de la Méditerranée. Bon, ça remontera sérieusement à partir de demain. Bon,
bah nous sommes au cœur de l'hiver.
Oui, c'est un peu normal.
Merci Louis. RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, tout info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 26 janvier. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et séquence souvenir pour commencer. Nous sommes en 1977.
Les opposants parlent de raffinerie de pétrole, de monstres à tuyaux. Les amateurs, pour leur part, s'extasient sur l'originalité de la réalisation.
C'était l'inauguration Mais du oui. Centre Pompidou. Aujourd'hui, le prestigieux musée d'art moderne a un peu vieilli. Un lifting s'impose. Il va donc fermer ses portes en 2023. Il rouvrira en 2027 pour son 50e anniversaire. Mais entre-temps, Monique Younes, les œuvres ne vont pas prendre la poussière.
En attendant que les 200 millions d'euros de travaux rajeunissent les tuyaux du Centre Pompidou, désamiantent ses baies vitrées et mettent aux normes sa climatisation et ses conditions d'accès, sa célèbre bibliothèque sera transférée dans un autre lieu parisien. Et pas question de laisser les 120 000 œuvres du centre jouées au bel au bois dormant dans les réserves. Elles seront prêtées aux 4 centres Pompidou de Metz, Shanghai, Malaga et Bruxelles. D'autres expositions internationales autour de Picasso et de Matisse sont à l'étude et si elles aboutissent, elles augmenteront les ressources propres du musée qui a perdu quelques 20 millions d'euros l'année dernière à cause de la Covid. Mais surtout, le musée Beaubourg compte renforcer ses liens avec les autres institutions françaises. Exposition avec les grands musées nationaux et importants dépôts d'œuvres en région. Ainsi, pendant ces 3 années de fermeture, le Centre Pompidou sera partout en même temps. On ne parlera que de lui.
Monique Younes du service culture d'RTL.
Casser l'épidémie sans casser le moral des Français et sans fracasser l'économie, c'est le casse-tête du moment pour l'exécutif.
Le nombre de patients Covid hospitalisés ne cesse d'augmenter. La barre des 3000 malades en réanimation vient d'être franchie pour la première fois depuis début décembre. Pourtant, Emmanuel Macron ne devrait pas s'exprimer cette semaine sur un éventuel reconfinement. Le chef de l'État attend le bilan à 2 semaines du couvre-feu des 18h. Il l'aura en fin de semaine. Pour l'heure, ce couvre-feu paraît insuffisant. C'est le sentiment en tout cas du docteur docteur Nicolas Lefebvre. Il est chef de service des maladies infectieuses aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Nous nous attendions tous à l'issue des fêtes à une troisième vague importante qui n'a pas eu lieu et il est probable que le couvre-feu a permis de limiter cette vague, même s'il n'a pas empêché la persistance de l'épidémie et la progression toujours constante d'un nombre de patients importants qui arrivent à l'hôpital et qui remplissent tous nos services. Donc comme tout le monde, on s'attend à des mesures politiques un peu plus dures dans les prochains temps.
Un propos recueilli par Yannick Holland. Du côté des vaccins, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hier, l'Institut Pasteur a annoncé qu'il stoppait son principal projet. Les premiers essais ont montré qu'il n'était pas aussi efficace qu'on l'espérait. Mais pour autant, le directeur de la recherche médicale de Pasteur, Bruno Bonne, ne veut pas parler d'échec.
Alors, je dirais pas qu'on a raté le train, on a pris le train en marche. Malheureusement, il n'arrive pas à la destination qu'on espérait. Et c'est sûr que ça fait un coup. Mais en tout cas, la recherche vaccinale se poursuit. Sur deux autres candidats vaccins, l'un de l'administration nasale, l'autre basé sur un vaccin à ADN. Et donc on y va et on espère qu'on aura des résultats plus satisfaisants.
Bruno Bonne au micro RTL de Sophie Orange. Dans le même temps, le vaccin AstraZeneca est remis en cause en Allemagne. Il ne serait efficace qu'à 8% seulement sur les plus de 65 ans. Le laboratoire dément. La France a commandé 44 millions de doses.
L'encadrement des loyers n'est absolument pas respecté. C'est ce que montre une enquête de l'association CLCV.
Actuellement, le système n'est appliqué qu'à Paris et à Lille. La CLCV a épluché un millier d'annonces et le résultat est sans appel. 40% ne sont pas conformes. Certains exemples sont particulièrement parlants, comme ce bailleur qui propose un deux pièces meublé à 1350 euros alors que le loyer est plafonné à 787. Pour David Rodriguez de la CLCV, il est temps d'agir.
On a calculé qu'à l'année, on avait en moyenne 1500 euros qui étaient réclamés de façon illégale aux locataires. 1500 euros. On a vraiment l'impression qu'en gros, tout est permis dès lors qu'on ne se fait pas prendre, quoi. C'est pas vu, pas pris en quelque sorte. Et c'est vrai que là, on le constate de plus en plus. D'où l'importance que le préfet fasse de plus en plus de procédures et inflige ses sanctions pour qu'il y ait un taux de conformité de plus en plus important.
Propos recueillis par Armel Lévy, la CLCV qui a décidé d'assigner Century 21 en justice pour pratiques commerciales trompeuses. La réforme de l'assurance chômage aura-t-elle lieu? La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a reçu hier les syndicats pour en discuter. Le gouvernement est prêt à la ressortir des cartons dès le printemps, mais pour Laurent Berger de la CFDT, c'est non.
Quel est le sens aujourd'hui, dans cette période que l'on traverse, de mener une réforme d'assurance chômage? Il ne faudrait pas jouer les apprentis sorciers parce qu'il faudrait en mesurer les impacts. Clairement, il n'y a pas d'application de la réforme possible au 1er avril. On a plutôt le sentiment que c'est repoussé après le printemps.
Laurent Berger au micro RTL d'Anaïs Bouissou.
Elisabeth Borne qui est l'invitée ce matin d'RTL et d'Alba Ventura dans une petite dizaine de minutes.
Les enseignants sont en grève. Aujourd'hui, ils réclament de meilleurs salaires et des postes supplémentaires. Un tiers des profs devraient être mobilisés dans le primaire. Des manifestations sont prévues dans toute la France. Les députés au chevet des animaux. Le projet de loi sur la maltraitance animale arrive aujourd'hui dans l'hémicycle. Il prévoit notamment de durcir les sanctions pour maltraitance jusqu'à 3 ans de prison pour la mort d'un animal. Aux États-Unis, l'acte d'accusation de Donald Trump a été transmis hier soir au Sénat. Cela marque le début de son procès en destitution pour incitation à l'insurrection après l'assaut du Capitole. Procès qui débutera le 9 février. En sport, la France connaît maintenant son adversaire en quart de finale du mondial de handball. Ce sera la Hongrie, battue hier soir par l'Espagne. Les Bleus sont invaincus pour l'instant dans cette édition 2021.
On va terminer le tout info en musique.
Avec justement un chant de marin qui fait le buzz. Ce vieil air du 19e siècle a été repris sur TikTok par un facteur écossais. Résultat, 9 millions de vues. Écoutez. The winds blew up her bow, dipped down below my billy boys blow. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the time is done, we'll take our leave. En 3 jours, c'est devenu l'un des titres les plus écoutés au Royaume-Uni. Et une reprise de 2018 est aujourd'hui numéro 2 des musiques les plus écoutées dans le monde sur Spotify. Take that whale in tow. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Sociaux sauront toujours nous étonner. Nous, on se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Et il sera encore question de marins, mais surtout de ceux qui les guident, rencontre avec les derniers gardiens de phare de France.
A tout à l'heure, Isabelle Choquet. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Il est 7h36.
Oui, Yves, pourquoi au pays de Pasteur connaît-on ces échecs en matière de vaccination? On va regarder ça dans un instant.
A tout de suite avec Langlais Co et François Langlais.
RT.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h38, L'Angle Écho avec vous, François Langlais. L'Institut Pasteur a donc hier abandonné son projet de vaccin contre le Covid, François.
En effet, son candidat vaccin, bon, déjà assez en retard, s'est avéré peu protecteur contre le virus à l'issue des premiers essais. Pasteur a donc préféré jeter l'éponge, et avec lui le laboratoire américain Merck qui s'était associé aux Français. Seconde défaite française dans cette bagarre mondiale contre le virus, après le retard d'un autre projet, celui du laboratoire Sanofi, dont la sortie a été décalée, là encore, à cause d'une immunité insuffisante. Défaite d'autant plus cinglante qu'elle touche Pasteur, une fondation indépendante qui a accumulé les succès, les prix Nobel depuis sa création à la fin du 19e siècle, en particulier la découverte du virus du sida au début des années 80.
Ça veut dire qu'il n'y a donc plus de projet français ?
Il n'y a pas de vaccin français opérationnel. Alors que les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie ont tous au moins un vaccin approuvé ou sur le point de l'être. Parmi les grandes puissances, la France est la seule à avoir raté cet objectif. Bon, à dire vrai, il y a bien un Français qui a réussi à sortir un vaccin, mais il dirige une entreprise américaine, Moderna. Normalement, le produit de Sanofi devrait être disponible à la fin 2021.
Qu'est-ce qui explique cette déconfiture tricolore, François ?
De mauvais choix, la fameuse technique de l'ARN messager révolutionnaire, elle avait bien été identifiée par Sanofi, mais jugée trop risquée. C'est grâce à elle pourtant que les premiers vaccins occidentaux sont disponibles, avec un taux d'efficacité supérieur à 90%. Idem pour Pasteur, qui a parié sur la plateforme vaccinale contre la rougeole. En fait, les deux Français ont choisi d'utiliser la technologie qu'ils connaissaient le mieux, et c'était une erreur. Les autres grands labos, Pfizer ou bien AstraZeneca, ont préféré s'associer avec de petites unités, start-up, département d'université à Oxford, plus réactifs, plus inventifs, plus mobilisés, qui, eux, ont pris le risque de développer une technique nouvelle, risque payant.
Ce qui veut dire que notre recherche ne fonctionne pas bien.
Écoutez, c'est incontestablement un signal inquiétant, d'autant qu'on était quand même réputés être les leaders mondiaux du vaccin. Donc ça appelle un diagnostic sans complaisance sur ce qui ne va pas en France. Et on ne parle pas seulement ici de fiscalité ou de réglementation, hein, mais d'un climat qui n'est pas favorable à l'innovation. Souvenez-vous, problème qui avait déjà été soulevé récemment, de façon éclatante, par la prix Nobel de chimie, Emmanuel Charpentier, qui a travaillé et réussi à l'étranger, en Allemagne. Ce qui est frappant, c'est que les trois premiers vaccins approuvés émanent de scientifiques universitaires. À Oxford au Royaume-Uni, au MIT aux États-Unis, à l'université de Mayence, en Allemagne. Universitaires qui se sont associés avec des grands groupes ou constitués en start-up pour développer leur idée. Rien de tel chez nous, où on stigmatise inlassablement les conflits d'intérêts dès qu'un scientifique s'intéresse au business. Bah, une obsession qui finit par coûter cher au pays.
L'abandon de Pasteur aura-t-il des conséquences sur la livraison des vaccins en France ?
Non, parce qu'il n'avait pas été retenu par la Commission européenne dans ses commandes. Quant au retard de Sanofi, bon, il explique en partie les difficultés d'approvisionnement en Europe. Pour en atténuer l'impact, Sanofi va aider à fabriquer les produits des autres. Ça n'est pas glorieux, mais c'est certainement très utile.
François Langlais pour L'Angle Écho, tous les matins sur RTL. Il est 7h42, bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
La ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Elisabeth Borne. On va parler réforme, celle de l'assurance chômage dont les négociations sont toujours en cours, et celle des retraites. Et avec cette question à 15 mois de la présidentielle et en pleine crise, peut-on encore réformer ?
Un menu de questions très garni. À tout de suite avec Elisabeth Borne.
RTL Matin, avec Yves Calvi.
Il est 7h44, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Elisabeth Borne.
Bonjour Elisabeth Borne. Alors vous avez reçu hier toute la journée les partenaires sociaux pour la suite des négociations sur la réforme de l'assurance chômage. Cette réforme, c'est stop ou encore ?
Alors d'abord, j'ai effectivement reçu toutes les organisations patronales et syndicales hier. C'est pas un mystère que certaines ne sont pas favorables à une réforme de l'assurance chômage. Moi, je trouve que c'est très positif que toutes aient accepté d'entrer dans une discussion pour trouver la meilleure façon d'améliorer le système actuel. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde sera d'accord sur tout, mais je pense que c'est très important d'écouter toutes les réactions et toutes les propositions. Par exemple, moi, j'entends les organisations syndicales qui souhaitent qu'il n'y ait pas de décalage entre les mesures qui concernent les entreprises, le bonus-malus, et celles qui concernent les demandeurs d'emploi. J'entends aussi les organisations patronales qui disent qu'il y a certains secteurs qui sont très affectés par la crise et qu'il faudra sans doute différer les mesures qui s'appliquent à eux.
Mais on entend surtout que ce n'est pas le moment.
Alors, moi, je pense qu'il faut aussi se dire que le système actuel, il n'est pas satisfaisant. On doit se donner deux objectifs. Pour moi, c'est à la fois de lutter contre la précarité en dissuadant le recours excessif aux contrats courts. C'est le système de bonus-malus. Et puis, il faut aussi plus d'équité dans le calcul de l'allocation chômage. Parce que vous savez, aujourd'hui, par exemple, si vous travaillez tous les jours à mi-temps ou un jour sur deux à temps plein, vous avez travaillé le même nombre d'heures et vous n'avez pas du tout la même allocation au chômage. Donc, je pense que ces objectifs, ils sont importants. Ensuite, évidemment, il faut tenir compte de la crise sanitaire, de la crise économique qu'on est en train de traverser. C'est pour ça que j'ai proposé aux organisations patronales et syndicales, par exemple, d'adapter les règles pour un jeune, de permettre qu'il puisse bénéficier d'une allocation chômage en ayant travaillé 4 mois et pas 6 mois. Et de façon générale, je leur ai proposé...
Mais cette réforme, Madame la Ministre, vous allez la faire ou vous n'allez pas la faire? Je vous dis ça parce qu'on n'imagine pas que la situation de l'emploi va s'améliorer. 800 000 emplois détruits en 2020. On sait que pour 2021, ça ne va pas rebondir d'un coup. Laurent Berger disait en sortant, on ne va pas rajouter du drame social au drame. Oublions les réformes.
L'objectif de cette réforme, je le redis, c'est lutter contre la précarité et avoir plus d'équité. Et j'ai proposé aux partenaires sociaux que les règles du futur système soient adaptées en fonction de la situation du marché de l'emploi.
Mais quand vous dites plus d'équité, on ne va pas couper dans les allocs en pleine crise ?
Non, mais je vous dis, aujourd'hui, il y a des injustices. On a une allocation qui varie du simple au double quand on travaille le même nombre d'heures. Donc je pense que lutter contre la précarité, avoir plus d'équité, c'est des objectifs qui sont importants. Il faut améliorer le système actuel. Et puis, je le redis, il faudra qu'on adapte les règles en tenant compte de la situation du marché de l'emploi. C'est ce que j'ai proposé aux organisations patronales et syndicales. Et cet objectif, je pense qu'il est bien reçu. On va continuer à y travailler dans la perspective d'une table ronde qu'on aura en février.
Elle sera faite avant la fin du quinquennat, cette réforme ?
Je pense vraiment qu'on a besoin d'améliorer le système actuel et que c'est important d'avancer sur cette réforme et de la faire en tenant compte de la situation dégradée du marché de l'emploi qu'on connaît aujourd'hui. Mais donc la réforme, elle doit se mettre en place avec des règles adaptées à la situation actuelle.
Et donc vous vous retrouvez tous autour du Premier ministre avant fin février, c'est ça ?
Alors on se retrouve sur l'assurance chômage dans le courant du mois de février.
La réforme des retraites, on l'enterre celle-là ou pas ?
Alors je pense que c'est clair. Aujourd'hui, la priorité, c'est de protéger les emplois, de protéger les entreprises. C'est de ça que je discute en permanence avec les partenaires sociaux. Et c'est vraiment ma priorité au quotidien, sauver le maximum d'emplois, permettre aux jeunes d'entrer aussi sur le marché du travail, malgré le contexte. C'est l'objectif de notre plan « Un jeune, une solution ». C'est ce qui doit mobiliser toute notre énergie, permettre de traverser cette crise en protégeant au maximum les emplois.
Madame la ministre, la réforme des retraites, on en fait quoi ? On ne comprend pas ce que vous avez en tête au gouvernement. Bruno Le Maire dit cette réforme des retraites est une priorité absolue. Vous dites cette réforme est nécessaire, mais pas la priorité de l'exécutif. Donc c'est urgent ou c'est pas urgent ?
Je pense qu'on partage tous le fait que la priorité des priorités, c'est de protéger les entreprises et de protéger les emplois. Ensuite, moi je pense que notre pays...
Vous me répétez exactement ce que vous venez de me dire.
Non, je vous assure, je pense que c'est notre priorité. Ensuite, je pense que notre pays a besoin d'une réforme des retraites, mais elle doit se faire dans le dialogue social. Et donc aujourd'hui, c'est pas de ça dont on discute avec les partenaires sociaux.
Non, mais est-ce qu'au moins vous allez faire la réforme du système, on dit universel, c'est-à-dire pour tout le monde pareil, ou est-ce que vous allez faire cette réforme qui touche plutôt aux critères financiers ?
Le projet qui a été porté par le président de la République, c'est clair, c'est d'avoir un système de retraite qui soit plus juste, plus lisible. Simplement, il faut trouver un chemin pour avoir une discussion avec les partenaires sociaux et aujourd'hui, ça n'est pas la priorité.
Ce qu'on comprend, c'est que ça va être compliqué quand même de réformer en 15 mois.
Vous savez, on n'arrête pas de mener des réformes et d'inventer des nouveaux dispositifs pour répondre à la crise. Quand on a, par exemple, en discussion avec les organisations patronales et syndicales, inventer un nouveau dispositif pour permettre aux salariés dont les emplois sont menacés de pouvoir rebondir vers des secteurs qui recrutent, c'est des réformes. Et c'est des réformes, je pense, qui seront structurelle.
Oui, mais ça, ce
durable.
Sont des grosses réformes, assurance chômage, retraite. Pourquoi vous ne vous dites pas que ça va être compliqué de les mettre en œuvre en 15 mois ?
Mais vous savez, je pense que la crise qu'on traverse, elle n'efface pas la nécessité de réformer notre pays, d'avoir un système d'assurance chômage, je vous dis, qui lutte mieux contre la précarité. Aujourd'hui, on voit bien, les salariés qui ont des CDI, on sait les protéger avec l'activité partielle. Tous ceux qui enchaînent des CDD, ils sont très pénalisés dans la crise. Donc on ne va pas renoncer à lutter contre le recours excessif aux contrats courts.
Elisabeth Borne, il y a des variants, des mutants, on n'est pas sorti de cette crise. Combien de temps la mesure de chômage partiel peut-elle être prolongée ?
Je vais être très clair. Tant que la crise le rendra nécessaire, on protégera les emplois avec l'activité partielle. Vous savez, au printemps, il y a eu près de 9 millions de salariés dont la rémunération a été prise en charge par l'État. Ça a permis de sauver les emplois. En novembre, 3 millions. Donc, tant qu'il faudra, on protégera les emplois.
Mais le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, nous dit que l'année 2021 doit marquer la fin du quoi qu'il en coûte. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre ?
Il n'y a aucun doute, le quoi qu'il en coûte durera aussi longtemps que la crise le nécessitera.
Il se trompe, Olivier Dussopt.
Je pense qu'il est optimiste sur la sortie de la crise.
Beaucoup de secteurs souffrent en cette période hivernale. La situation des saisonniers des stations de ski est particulièrement inquiétante. On parle de 40% de saisonniers, Elisabeth Borne, qui ne toucheraient pas le chômage partiel faute de contrat. Qu'est-ce
Moi,
que vous pouvez faire pour
vous
eux ?
Vous savez, j'ai invité tous les employeurs à recruter les saisonniers comme c'était prévu. Ils peuvent ensuite être placés en activité
partielle.
Mais
vous savez très bien qu'ils avaient peur, que la crainte a fait qu'ils n'ont pas embauché. Vous leur avez dit embauchez.
On prend en charge à 100%. Moi, je sais qu'il y a des secteurs comme les remontées mécaniques qui ont embauché à 95% les saisonniers. C'est évidemment très important pour ces saisonniers qui jouent 4 à 5 mois de leur activité de l'année pendant cette période. Et voilà, moi, je remercie les remontées
mécaniques. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ceux-là là, qui n'ont pas de contrat et qui, du coup, n'ont pas droit au chômage partiel ? Ils vont se retrouver à la rue ?
Alors, vous savez qu'on est évidemment attentif à ceux qui sont le plus fragilisés. C'est pour ça qu'on a mis en place une aide exceptionnelle pour ceux qui enchaînaient des contrats courts et des contrats saisonniers et qui n'ont pas pu le faire du fait de la crise. C'est une aide qui leur garantit une rémunération de 900 euros. Mais moi, je souhaite vraiment que ceux qui peuvent bénéficier d'un contrat saisonnier, que les employeurs signent ces contrats. Et je le redis, l'État prend en charge 100% de la rémunération du saisonnier.
On sait que tous les restaurants ne rouvriront pas. Et puis, il y a tous ces gens qui travaillent dans l'événementiel, le cinéma, qui ont perdu leur emploi, qui ne le retrouveront pas. Qu'est-ce que vous leur proposez ? Comment on prépare au métier de demain ? Comment vous préparez cet avenir-là pour ces
Alors,
gens-là ?
D'abord, on est vraiment très attentif à la situation des jeunes. La situation, elle est très difficile pour les jeunes qui ont... C'est un âge où on a besoin de se rencontrer, d'avoir des échanges. On a, dès le mois de juillet, mis en place un plan Un jeune, une solution. C'est 7 milliards d'euros. C'est à la fois des aides à l'embauche. Vous savez qu'on a décidé de les prolonger jusqu'à fin mars. Il y a eu plus d'un million de jeunes recrutés en CDD de plus de 3 mois ou en CDI, 450 000 apprentis. Donc ce plan, il porte ses fruits. Il faut qu'on accompagne les jeunes
et
vers
les moins
l'emploi
jeunes.
Et vers l'emploi et les moins jeunes, mais qu'on les accompagne vers l'emploi, vers des formations sur des métiers qui recrutent, qui puissent bénéficier, notamment les jeunes, d'un accompagnement pour à la fois élaborer leur projet professionnel et le réaliser.
Madame la ministre, en cas de confinement, de reconfinement, est-ce que vous allez durcir la règle du télétravail ?
Vous savez, la règle du télétravail, ça reste depuis le mois de novembre que quand vous pouvez faire une tâche à distance, vous devez télétravailler. Donc la règle, ça reste, si toutes vos tâches peuvent être faites à distance, alors 100%, vous devez être à 100% en télétravail. On a permis, parce qu'il y avait des difficultés psychologiques exprimées par les salariés, de revenir, pour ceux qui en expriment le besoin, un jour par semaine. Mais la règle, ça reste 100% de télétravail. Et je peux vous assurer qu'on va vérifier que c'est bien ce qui est appliqué. Il faut absolument appliquer au maximum le télétravail.
Et en entreprise, la règle sur les masques va changer ?
Elle va changer, puisque on nous a maintenant, la Haute Autorité de Santé nous a indiqué que les masques dits de catégorie 2, c'est-à-dire ceux que vous fabriquez à la maison, ne protègent pas assez. Donc on va préciser qu'en entreprise, il faut avoir des masques qui protègent vraiment les salariés. Vous savez que c'est aussi la responsabilité du chef d'entreprise de mettre à disposition des masques qui protègent bien. Et donc, on précisera qu'on exclut les masques fabriqués à la maison.
Un dernier mot. On célèbre les 10 ans de la loi Copé-Zimmermann qui a imposé des quotas de femmes dans les conseils d'administration des entreprises. Il y a plus de 45 femmes aujourd'hui. Il a fallu ça, mais on est loin du compte.
Ah, je pense qu'il reste encore beaucoup à faire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. il faut agir à tous les niveaux sur la rémunération. C'est l'objectif de l'index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et avec Bruno Le Maire, on souhaite aller plus loin. Moi, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes dans les fonctions de direction des entreprises. Et on aura à faire des propositions sur ce sujet-là.
Merci beaucoup, Elisabeth Borne.
La priorité, c'est l'emploi, vient de nous dire Elisabeth Borne. Pour traverser cette crise, la réforme des retraites est nécessaire, nous dit la ministre, mais ce n'est plus la priorité. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site RTL.fr, comme chaque jour, sur notre application mobile. Et dans un instant, nous retrouvons Cyprien Sini, qui surfe avec le Davos virtuel. A tout de suite.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
7h56, vous nous emmenez dans les Grisons ?
Oui, à Davos. C'est une habitude, hein. Nous, au surf de l'info, on ne rate jamais le WEF. Bah oui, le WEF.
Le World Economic Forum a demandé aussi.
Le World Economic Forum, le Forum économique mondial, quoi. Les maîtres du monde en Suisse, en toute simplicité.
2500 chefs d'État, de gouvernement.
Le ballet des hélicoptères et des limousines du Gotha de l'économie.
Petit four et rendez-vous d'affaires.
Oui, enfin ça c'est la version grand public, hein. Sinon c'est plutôt...
Raclette, tartiflette, ski, hammam et sauna des Alpes.
Ça c'est la version Martial Youl chez Michel Isseco quand il y va. Hein. Enfin, on n'est pas sûr, mais bon, de toute façon, cette année Davos c'est surtout... Le vent, le désert... Il n'y a personne, pandémie oblige, les maîtres du monde se retrouvent derrière leur ordi en visio, Bill Gates en pyjama de satin, comme un vulgaire salarié en télétravail, devant sa webcam. Et oui, une pandémie qui agit comme un véritable révélateur pour le Gotha de l'économie mondiale, un électrochoc, la preuve.
L'année est cruciale pour rebâtir la confiance, c'est le thème central de ce 51e forum économique de Davos.
Oui, rétablir la confiance, thème central cette année. Mais alors attendez, en 2003... Il y a 18 ans quand même. Hein. Oui. C'était quoi le thème central ?
Pas Davos, pour rétablir la confiance.
Ah bah déjà, dites donc, ça fait un moment qu'elle n'est pas rétablie. Hein. Mais bon, cette année quand même, avec tout ce qu'on vient de vivre, ils ont passé à la vitesse supérieure. Hein. La priorité des priorités, c'est...
Au forum de Davos, les intervenants insisteront donc sur la lutte contre les inégalités, mais aussi sur les problématiques environnementales.
Inégalités, voilà. Problématiques environnementales, voilà, on y est. Mais l'an dernier, elle y allait pourquoi à Davos, la ministre du Travail de l'époque, Muriel Pénicaud ?
Et d'ailleurs, moi, je milite et j'irai à Davos pour militer là-dessus, sur un capitalisme responsable où il y a du partage de la valeur, où on lutte contre les inégalités et aussi pour l'environnement.
Ah ben, inégalité, environnement, déjà l'an dernier, mais alors il y a 2 ans.
La protection de l'environnement sera l'un des sujets clés débattus par les chefs d'entreprise, les décideurs politiques.
Et il y a 3 ans, alors. Mm-hmm.
Le thème cette année, c'est construire un avenir commun dans un monde fracturé.
Oui, alors on change les mots, mais ça reste un peu le concept. Hein. Et puis alors, il y a 16 ans, en 2005.
La lutte contre la pauvreté. C'est le sujet de cette année.
Comme c'est original. Bon, après, c'est vrai que ça peut revenir tous les ans. Un constat semble s'imposer à Davos.
C'est vrai que taxer davantage les plus riches, eh bien, divise à Davos.
C'est pas vrai, ça. Alors, parlez-en plutôt à Nicolas Sarkozy, qui en 2010 nous a offert notre meilleur moment à Davos. On ne s'en lasse pas, souvenez-vous.
Celui qui contribue à détruire des emplois et des richesses sans tirer aucune conséquence de la situation, c'est moralement inacceptable. Il y aura à l'avenir. Je remercie les deux personnes qui applaudissent cela.
Oui, Davos, ton univers impitoyable face aux bonnes intentions. Après, comme le disait Kant, oui, c'est un peu bien de citer Kant quand même. L'intention vaut action. Le problème, c'est que Kant, il n'a pas dit quand est-ce qu'elle arrivait l'action.
Cyprien Sini. Moi, maintenant, je vais citer. Louis Bonnard.
Ah. Merci. Bon, pour parler de ce temps sec encore aujourd'hui sur la France, il faudra en profiter parce qu'après on va utiliser le parapluie. Donc aujourd'hui, du temps sec sur toutes les régions, ou presque. Les pluies arriveront quand même en cours de journée sur la Bretagne, sur le Cotentin. Ailleurs, du temps sec, mais un ciel de plus en plus nuageux au fil des heures, sauf sur les Pyrénées, près de la Méditerranée, où là le soleil résistera encore largement. Même chose en plaine d'Alsace. Tout cela avec des températures très contrastées. Hein. Ce matin, on a encore de fortes gelées quasiment partout. Et cet après-midi, 4 à 6 degrés, pas plus dans la moitié nord, jusqu'à 8 sur les côtes bretonnes, 6 à 9 degrés dans les régions du sud-ouest et 10 à 13 degrés dans le sud-est.
Il est 8 heures.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, Emmanuel Macron qui cherche la bonne stratégie face à l'inéluctable troisième vague.
Et ce alors que certains de nos voisins maintiennent leurs restaurants, leurs théâtres et leurs cinémas ouverts. Illustration à Madrid dans ce journal. Départ en cascade autour de Marine Le Pen. Info RTL, plus d'un quart des élus régionaux ont claqué la porte du RN depuis 2015. Et puis, nous vous dirons pourquoi le vin n'aura bientôt plus jamais le goût de bouchon.
RTL Matin.
Mais tout d'abord, la RATP priée de faire le ménage dans le maquis de ses primes. Il y en a des centaines. La Cour des comptes demande à l'entreprise d'y mettre un peu d'ordre. Certaines de ces primes sont justifiées, pour le travail de nuit par exemple. Mais d'autres, Éric Vanier, interroge.
Il y a d'abord les primes qui paraissent totalement désuètes. La prime de machine à écrire, par exemple. Quelques salariés la touchent encore. Pas sûr qu'ils s'en rendent compte sur leur fiche de paie, car son montant, jamais réévalué, est de 80 centimes. Ils sont plus nombreux à toujours percevoir une prime pour utilisation d'un ordinateur, créé à l'époque pour inciter les agents à utiliser l'informatique. J'ai repéré aussi une prime d'usure anormale des chaussures. Elle est accordée aux ouvriers qui sont amenés à marcher sur le ballast. Plus surprenant encore, les primes qui récompensent le travail pour lequel vous êtes payé. Les soudeurs touchent une prime de soudure, les conducteurs une prime de conduite quand ils font des manœuvres en gare, et les agents de maintenance sur les voies sont gratifiés d'une prime d'anomalie technique quand ils décèlent un rail fissuré ou une avarie sur un transfo, sauf que c'est juste leur job. Tout aussi étonnant, la prime de non-perte d'outillage pour être sûr que tout le matériel soit rendu, et la prime dite de sang-froid jusqu'à 64 euros si l'agent réussit à dissuader un usager de se jeter sous les roues d'une rame.
Éric Vanier, on aurait pu aussi citer la prime de capture d'animaux, 3,50 euros pour une souris, mais ça peut grimper jusqu'à 10 euros en fonction de la taille de la bête.
Bon, écoutez, il faut une prime des primes, absolument. Alors, confinement hors notre confinement, bah, telle est la question.
Emmanuel Macron veut se donner du temps, ne pas céder à la pression des médecins alors que la barre des 3000 patients en réanimation vient d'être dépassée pour la première fois depuis début décembre. Au CHU de Lille, les indicateurs sont au rouge. Le patron des urgences, Patrick Goldstein, plaide pour un reconfinement express et total.
Comment il faut confiner, je dirais vite et fort. Du type premier confinement, celui du mois de mars, je le préférais court, probablement pendant 15 jours. Vous me diriez quand ? Je dirais que les vacances scolaires me semblent être une réponse idéale, parce que c'est là qu'il y aurait le moindre impact sur la scolarisation des gamins. Et je pense que la fermeture des écoles n'est pas une bonne solution.
Propos recueillis par Franck Hanson. À chaque pays, sa stratégie, alors que la culture est sur pause depuis des mois chez nous en France, en Espagne, à Madrid, elle continue malgré la reprise galopante des contagions. Sur place pour RTL, Diane Cambon.
Il est 19h et la salle de l'Opéra de Madrid est à 60% pleine selon les normes Covid. Les spectateurs masqués se sont laissés prendre la température et occupent un siège sur deux. Aucune institution n'a dépensé autant pour garantir la sécurité, près d'un million d'euros. Pour Marisa, une madrilène passionnée d'opéra, c'est une garantie.
On a lu qu'il y avait des mesures de sécurité très importantes et c'est pour ça qu'on est venu. Je pense que tout va bien se passer.
Demeurer ouvert et maintenir la programmation est un défi et un devoir pour le président du Théâtre Royal, Gregorio Marañón.
On a ouvert le 1er juillet avec une Traviata. La décision correcte, à mon avis, c'était d'ouvrir nos portes au public. La culture s'enferme pas dans la sûreté d'une maison fermée.
Les artistes et musiciens sont soumis à des dépistages fréquents, comme l'explique Rema Piccolo de l'orchestre.
Il ne se passe pas deux ou trois semaines sans que l'on fasse des tests et pour le moment, tout va plutôt bien.
Pour l'instant, les autorités régionales favorisent la vie nocturne et culturelle, mais jusqu'à quand ?
Diane Cambon à Madrid pour RTL Madrid, où les bars et les restaurants sont aussi toujours ouverts avec fermeture à 21h. Inquiétude autour du vaccin AstraZeneca. Il ne serait efficace qu'à 8% pour les plus de 65 ans d'après le gouvernement allemand. C'est complètement faux, répond ce matin le laboratoire pharmaceutique. La France a précommandé 44 millions de doses de ce vaccin.
Il est 8h05. Une certitude durant cette période si particulière, on n'arrête pas le progrès.
On vous parlait à 7h de cette entreprise toulousaine qui fabrique des masques tueurs de virus. Et voici que certaines écoles s'équipent de capteurs pour contrôler la qualité de l'air. Reportage dans une école maternelle parisienne de Sophie Jousselin.
Le cylindre métallique est posé sur un meuble juste à l'entrée de la classe. Margot, 5 ans et demi, nous explique à quoi il sert.
Il dit quand on va ouvrir les fenêtres.
Plus précisément, ce capteur mesure la quantité de gaz carbonique dans l'air. Il l'exprime en ppm, particules par million. Et passé un certain seuil, il faut renouveler l'air. Marcin Mezinski de la société Netatmo qui a équipé l'école.
1000 ppm, c'est une norme à partir de laquelle il faut ouvrir les fenêtres. On va ramener de l'air frais et on va disperser tout ce qu'il y a à l'intérieur, y compris les particules de coronavirus, s'il y en a, évidemment.
Et quand la limite est franchie...
Il y a un petit avertisseur sonore sur mon
mon smartphone, ça m'indique qu'il est temps d'ouvrir les fenêtres.
Et Florence Keguiner se rend compte que dans sa classe de 28 élèves en grande section de maternelle, les chiffres grimpent très vite.
En fait, à 8h15, nous étions à 620 ppm et donc à 8h45, on était déjà à 1105 ppm. Là, j'ai ouvert. Donc, il faut vraiment que les pièces soient aérées très très souvent, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense en réalité.
Et en plus, comme l'explique Margot, quand on renouvelle l'air...
On a pas mal à la tête et on a des forces.
Et donc, on est plus attentif à ce que dit la maîtresse.
Mais évidemment, reportage à l'école Charles de Foucault dans le 14e arrondissement de Paris, Sophie Jousselin. Le quoi qu'il en coûte durera aussi longtemps qu'il le faudra. Précision importante d'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, ce matin sur RTL, alors que son collègue chargé des comptes publics, Olivier Dussopt, avait laissé entendre la semaine dernière le contraire en annonçant la fin des aides pour cette année. Je pense qu'il a été un peu trop optimiste, a répondu sur notre antenne Elisabeth Borne. Et puis, Winston va mieux. Winston, oui, c'est ce vieux gorille du zoo de San Diego en Californie. Il avait contracté le coronavirus, il était tout patraque. Il a bénéficié d'un traitement à base d'anticorps similaire à celui qu'avait remis sur pied Donald Trump. Il pourra donc fêter ses 49 ans le 20 février prochain.
Vous faites une conjonction entre les deux ou...
Pas du tout.
Alors, dans un instant, des départs en cascade au Rassemblement National, nos informations sont à venir. A tout de suite.
RTL Matin. RTL Matin.
8h09, la suite du journal de Jérôme Florin. Marine Le Pen s'apprête à dévoiler ses listes pour les prochaines élections régionales.
Mais la patronne du Rassemblement National, qui avait reçu une belle moisson en 2015 en décrochant 358 élus, plus que le PS à l'époque, en a perdu depuis beaucoup. Vous nous le révélez pour RTL Marie Mollet, c'est une hémorragie.
Oui, d'abord, il y a ceux qui sont partis pour suivre Florian Philippot et sa ligne anti-euro. Ceux qui n'y croyaient plus après le débat raté du second tour. Les guerres de clans, les vexations personnelles. 5 ans plus tard, 94 élus RN ont claqué la porte d'après notre décompte. Dernière démission en date, c'était il y a un mois, dans les Hauts-de-France. Françoise Colzat, élue du Nord, était de ces militants pur sucre. Passion, Front National, héritée de ses parents. Elle a rendu sa carte, car dit-elle, le RN s'est perdu. Plus de conviction, plus de mordant. À force de se dédiaboliser, Marine Le Pen est devenue trop modérée à son goût.
On ne voit pas ce qu'elle défend. Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Elle copie ses positions sur les sondages, c'est des positions centristes, quoi. On ne voit plus tellement la différence du discours entre Macron et le Rassemblement National. Moi, j'ai toujours participé aux manifestations des Gilets jaunes. On nous demandait de ne pas y aller. On est plutôt dans le renoncement. Je leur ai fait comprendre, j'ai donné plusieurs signes. On n'a aucune nouvelle. Ils s'en fichent, ils ne retiennent pas leurs élus.
Un parti qui ne retient pas ses troupes, non, une accumulation de cas personnel minimise un cadre. Il n'empêche, ces départs en cascade coûtent très cher au RN, y compris dans les caisses du parti. Car la plupart des conseillers régionaux reversent 15% de leur indemnité au Rassemblement National. Un élu qui part, c'est un manque à gagner qui pourrait avoisiner près de 300 000 euros par an selon nos calculs. Pas un détail pour un parti criblé de dettes.
Enquête RTL signée Marie Mollet. Nouvelle grève à l'éducation nationale. Aujourd'hui, à l'appel de 6 syndicats, ça concerne le primaire, le collège et le lycée. Les personnels dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail depuis la pandémie.
Et pour finir, une bonne nouvelle pour les amateurs de vin.
Sachez-le, le goût de bouchon, c'est bientôt terminé. Ce goût qui peut vous gâcher un millésime dont vous aviez patiemment repoussé l'ouverture en attendant une bonne occasion, l'entreprise portugaise qui fabrique ces bouchons de liège vient de trouver la solution, Martial You.
Et oui, ça fait 12 ans que l'entreprise portugaise, leader mondial du liège, travaille sur cette solution. Ce qui donne un goût de bouchon, c'est la molécule TCA, figurez-vous. Oui. Et c'est elle qui se diffuse dans le vin au bout d'un certain temps et qui donne donc ce goût amer. Ça gâche quand même 3% des bouteilles. Or, 6 à 7 bouteilles sur 10 sont bouchées avec du liège. C'est une technique qu'on connaît bien puisqu'elle date de l'Empire romain. Alors, l'entreprise Amorim a donc mis au point une technique de fabrication qui extrait le TCA. Jusqu'ici, la technologie était assez coûteuse et elle était destinée uniquement aux grands crus. La trouvaille est beaucoup plus rentable et on va donc pouvoir en faire bénéficier 1 milliard de bouteilles par an au lieu de 80 millions aujourd'hui. Alors c'est bien sûr stratégique pour le groupe Amorim parce que depuis 2000, le bouchon en liège se faisait tailler des parts de marché sur les petits vins au profit de capsules à visser, on les a toutes vues, et puis de bouchons synthétiques.
Merci beaucoup Martial, désormais spécialiste du bouchon de liège. On l'ouvre cette bouteille.
Je pousse le bouchon.
Voilà. On est des enfants. Hein. On s'amuse encore à faire ce genre de choses. On termine avec l'histoire du jour.
À Dubaï, on ne se pose pas la question sur le passeport vaccinal. Vous savez, ça fait beaucoup de débats ici chez nous. Trois restaurants de Dubaï offrent des promos aux clients vaccinés. 10% de réduction sur le menu si on a une dose. 20% si on a les deux. Il faudra présenter un certificat médical.
Et c'était le journal de Jérôme Florin.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
8h12, les fausses informations avec Jean-Mathieu Pernin. Bonjour Jean-Mathieu.
Bonjour.
Aujourd'hui, la rumeur s'amplifie autour d'une possible annulation des Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Qu'en est-il ?
Le gouvernement japonais a conclu en privé que les Jeux Olympiques de Tokyo devront être annulés en raison du coronavirus. Voilà comment commence l'article publié jeudi dernier par The Times, hein, l'une des références de la presse anglo-saxonne. Selon le journal britannique, sans citer de nom, le gouvernement japonais et ses membres se seraient accordés sur le fait que les Jeux, déjà reportés d'un an, sont condamné. Alors, la rumeur s'enflamme dans le monde. Il n'y aura pas de JO cet été au Japon. Et voilà, encore foutu avec le hashtag Tokyo 2020. Je le savais, lit-on sur les réseaux sociaux. Est-ce vrai ? Est-ce faux ? Alors, nul ne le sait. Les sportifs qui s'entraînent sont dans le doute. Des experts du milieu olympique expliquent que Tokyo souhaiterait sortir la tête haute en proposant d'organiser les JO de 2032, prochaine année olympique disponible, après ceux de Paris et de Los Angeles. Hier, le responsable des finances de Floride aux États-Unis a même écrit une lettre au président du Comité international olympique pour lui proposer de transférer les JO de Tokyo chez eux, en citant l'article du Times. Bon, pas sûr que la Floride au niveau Covid ce soit rassurant. Des rumeurs démenties donc par le Premier ministre japonais, également par le directeur général de Tokyo 2020, Toshiro Muto. Il a affirmé que la tenue des Jeux est notre cap inflexible. Même chose du côté du président du CIO.
Alors pourquoi de telles rumeurs et surtout un tel emballement ?
Eh bien la rumeur d'une annulation des JO de Tokyo en 2021 existe depuis... le report des JO de Tokyo en 2020. Voilà. Quand on repart un an en arrière, les organisateurs avaient confiance sur la tenue des Olympiades à l'été dans la capitale nippone. Nous étions début février. Puis, fin février, les mêmes organisateurs évoquaient des ajustements. Et finalement, en mars, la demande d'un report d'un an. La même méthode de persuasion est utilisée par le gouvernement japonais aujourd'hui. Et forcément, le doute s'immisce, puisqu'on a déjà vécu la même chose l'année dernière. Selon un sondage publié en décembre, près de 80% des Japonais sont pour une annulation ou un report de ces Jeux Olympiques. On évoque désormais des Jeux à huis clos. Comme souvent, moins le gouvernement est clair, plus la rumeur ronfle.
Un flou entretenu pour des raisons économiques ?
Bah oui, puisque selon une étude de l'université japonaise de Kansai, et publiée par le journal L'Équipe, un nouveau report des Jeux Olympiques de Tokyo équivaudrait à un manque à gagner de 35,6 milliards d'euros, soit environ 1% du produit intérieur brut du Japon. En prenant en compte les retombées hors sportives amenées par la compétition et la précédente annulation à l'été 2020. Hier, les organisateurs ont annoncé que les Jeux seraient plus contraignants pour les athlètes non vaccinés, avec quarantaine et tests quotidiens. Nouveau problème, les athlètes ne sont pas du tout une catégorie prioritaire pour le vaccin. Organiser les JO partant de Covid, c'est une vraie épreuve olympique.
On va donner la médaille d'or au Japonais, on l'a bien compris ce matin. À demain matin.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 8h15, c'est l'heure de retrouver notre brigade RTL avec vous, Sophie Orange, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
L'Institut Pasteur qui stoppe un essai, des doutes sur l'efficacité du vaccin AstraZeneca chez les plus âgés, qui annonce aussi des retards de livraison, de nombreux centres qui ne prennent plus de rendez-vous, faute de doses, en France et en Europe. Comment en est-on arrivé là ? On va tenter de répondre à cette question avec vous Sophie. Les mauvaises nouvelles font partie de la recherche et de la course au vaccin, non ?
Oui, c'est toujours une prise de risque, la recherche, et en plus dans un temps record, en moins d'un an. Mais les retards de livraison d'AstraZeneca ont tout de même suscité la colère de tous les dirigeants des instances européennes sur le thème « On vous a donné beaucoup d'argent, on a précommandé 400 millions de doses, dans les contrats figurait l'augmentation de la capacité de production, sous-entendu, il faut maintenant honorer vos engagements, des labos clairement sous pression, mais qui se sont engagés avec l'Europe sur un nombre de livraisons par trimestre et non pas par semaine. »
Alors, elles sont où les solutions, Sophie ?
Alors, commander plus de doses n'aurait servi à rien puisque c'est la production qui a du mal à suivre. C'est pas du tout le même sujet aux États-Unis qui a plus d'usines sur place et qui a financé plus tôt des programmes de recherche et de production. Résultat, déjà plus de 10 millions d'Américains vaccinés. L'Union européenne a signé des contrats plus tard pour 2,5 milliards, 3 milliards d'euros. Ce décalage, on le paye maintenant. D'où la demande, par exemple, de la France à Sanofi, mettre à disposition des lignes de production pour fabriquer les vaccins de ses concurrents, vu que le vaccin de Sanofi a pris du retard.
Mais ça prendrait quelle forme ?
Alors, on en saura plus ce soir, mais plusieurs experts du secteur imaginent que ce ne sera pas un rachat de brevets, mais des contrats de sous-traitance sur la phase finale, c'est-à-dire au moment où le vaccin est mis dans un flacon, puis dans son emballage. Deux laboratoires se sont dit intéressés par les chaînes de production de Sanofi.
L'État ne peut pas demander à tous les labos de fournir cet effort ?
Alors, ce serait vraiment le dernier recours, ce qu'on peut dire comme l'arme nucléaire, hein, si vous voulez. Ça s'est déjà fait dans certains pays pour contrer une épidémie ultra meurtrière, celle d'Ebola. En France, c'est difficilement imaginable. Et puis, il faut continuer à produire les autres vaccins, hein, de toute façon, comme la rougeole, par exemple. Mais d'autres entreprises françaises, comme Delpharm, Recipharm, ont signé déjà des accords avec Pfizer et Moderna. La production commencera dans le meilleur des cas fin février seulement. Là encore, contrat de sous-traitance pour la dernière phase. On espère que la situation s'améliorera au deuxième trimestre en croisant les doigts pour que les matières premières suivent.
Merci beaucoup Sophie Orange, bonne journée à vous et surtout très bon anniversaire chère Sophie. Oh.
Mais oui, merci beaucoup,
la rédaction vous embrasse.
La France est au courant.
On retrouve Michel Simès qui va nous éclairer lui sur la notion d'aliment miracle hein, qui serait très bénéfique pour notre santé. Méfiance à nous dire Michel dans un instant, à tout de suite.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Ce matin, vous attirez notre attention sur certains aliments dits aliments miracles. Et vous nous dites, non, ça n'existe pas.
Non, eh ben je vous le dis, ça n'existe pas, même s'il existe des aliments plus recommandables que d'autres. Je vais prendre deux aliments courants et qui ont bonne réputation, la tomate et le brocoli. Vous avez sans doute lu ici et là que le brocoli était un rempart contre le diabète et la tomate efficace pour prévenir le cancer de la peau.
Oui, c'est faux ?
Oui, enfin je peux pas affirmer que c'est faux, mais je peux pas affirmer non plus, comme d'aucuns n'hésitent pas à le faire, oui, que c'est vrai.
D'accord.
Voilà, pour comprendre où je veux en venir, il faut que je vous explique comment on en est arrivé à ce que ces deux informations circulent avec insistance. Mmh. Dans le cas de la tomate, on a pris des souris que l'on a exposées à des rayons ultraviolets qui provoquent, on le sait, le cancer de la peau. Les souris étaient réparties en deux groupes. Le premier avait droit à une alimentation classique, le second à une alimentation enrichie de poudre de tomate. Et les chercheurs ont constaté que dans le second groupe, celui avec la poudre de tomate, eh bien les souris développaient moins de tumeurs que dans le premier groupe.
Mais vous voulez me dire que les souris ne sont pas des êtres humains, peut-être ?
Tout à fait, vous l'avez remarqué. Hein, quand la recherche travaille avec les animaux, ça lui fournit des indications préliminaires, mais pas de quoi extrapoler. Pour pouvoir affirmer que la tomate protège contre le cancer de la peau, il faudrait que l'expérience soit menée sur l'homme, mais c'est impossible pour d'évidentes raisons éthiques. Et dans le cas du brocoli, on a pris 1000 personnes. On leur a demandé de remplir un questionnaire. À l'arrivée, on constate que les amateurs de brocoli sont moins diabétiques que ceux qui n'en consomment pas.
Bon, alors là, pour le coup, l'expérience est menée sur des êtres humains. Enfin...
Oui, sauf que le diabète de type 2, c'est une maladie multifactorielle. D'accord. L'alimentation joue un rôle, bien sûr, mais il y a aussi le mode de vie. Dès lors que vous mangez du brocoli, on peut considérer que vous êtes attentif à votre consommation de légumes en général, à votre consommation de fruits sans doute aussi, parce que vous êtes dans une démarche vertueuse et que vous faites plus d'activité physique, donc que vous fumez moins, donc que vous buvez moins d'alcool. Bref, tous ces facteurs portent un nom, on les appelle les facteurs confondants et ils sont susceptibles de fausser les conclusions d'une étude.
Bon, mais la recherche est capable de tenir compte de tout cela, non ?
Oui, elle s'efforce d'en tenir compte, mais si le nombre de variables est trop important, ça complique les choses. En fait, le brocoli et la tomate sont inattaquables, ces aliments ne vous feront jamais de mal, mais l'erreur consisterait à s'en gaver, à ne manger que ça au prétexte qu'ils ont bonne réputation. Mon propos ce matin consiste à rappeler qu'il n'existe pas d'aliments miracles et qu'en conséquence c'est dans une alimentation variée et équilibrée que vous puiserez de quoi rester en bonne santé. Et encore une fois, intégrer le brocoli et la tomate dans cette alimentation, mais n'en faites pas l'alpha et l'oméga de votre démarche alimentaire. Le salut se trouve dans la diversité.
De tout un peu, si je dois résumer.
Exactement.
Merci Michel et à demain. Dans un instant sur RTL, on sort la grand voile pour glisser sous le vent du Vendée Globe. Nous serons avec Michel Desjoyeaux, Kevin Escoffier et vous Louis Baudin pour vivre les toutes dernières heures de cette course mythique où le suspense est absolument entier à quelques milles nautiques de l'arrivée. Restez avec nous, on va prendre le grand air.
Calvi, RTL Matin.
Il est 8h24, le suspense reste entier pour cette 9e édition du Vendée Globe. À quelques heures de l'arrivée, tout peut encore basculer. Bonjour Michel Desjoyeaux.
Bonjour Yves,
vous êtes,
bonjour tout le monde.
Vous êtes double vainqueur, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bienvenue à Kevin Escoffier, skipper de l'équipe IMOCA. Vous avez rencontré quelques soucis lors de la course, c'est le moins qu'on puisse dire. On va y revenir dans quelques instants. Et je salue Louis Baudin, chef du service météo d'RTL et notre spécialiste de la voile. Alors, Kevin Escoffier, je démarre avec vous. Vous avez connu des moments difficiles dans cette course. Qu'avez-vous appris dans ces moments difficiles justement ?
Bah, ça m'a confirmé que ce que je pensais déjà, c'est que dans la plupart des soucis, on réussit à s'en sortir. Donc c'est vrai que là c'était pas anodin. Et il fallait bien réagir et j'ai été également bien aidé par mes concurrents qui sont venus se dérouter pour m'en sortir parce que tout seul j'aurais pas réussi à rejoindre la Terre.
Vous suivez avec la course avec un autre œil après une épreuve comme ça?
Ouais, non, enfin, je le suis avec un œil où des fois, c'est vrai que c'est un petit pincement au cœur parce que bien évidemment qu'aujourd'hui, je préférerais être sur l'eau à me battre avec, ou contre les copains pour essayer de faire la plus belle régate possible. Maintenant, voilà, faut pas y penser trop, faut pas refaire la course. J'ai cassé, j'ai abandonné et je me concentre plutôt sur le futur pour essayer de récupérer ou de reconstruire un bateau et de faire continuer le projet avec PRB.
Bah, vous pensez bien entendu à la prochaine course. Michel Desjoyeux, on est ravis de vous avoir avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes double vainqueur de la course. Ce genre de déconvenue, celle qu'on vient d'évoquer avec Kevin Escoffier, fait partie par définition de ce type d'épreuve.
Oui, bien sûr, j'en profite pour saluer Kevin, on est très content qu'il soit revenu entier.
Salut Mich.
Bravo à toi, on n'a pas eu le temps d'échanger encore. Oui, c'est la grande particularité de cette course, c'est que déjà la finir, c'est quelque chose d'exceptionnel et moi je m'en rends compte à chaque nouvelle édition, quand je vois ceux qui abandonnent, je me dis, ben voilà, ça aurait pu aussi m'arriver. J'ai réussi à finir les deux auxquels j'ai participé et trop souvent maintenant à la 9e édition, on a l'impression que c'est facile, que voilà, tout le monde va finir, que ça va être une belle course et puis il y a toujours des problèmes, il y a toujours des avaries de mer, et ça fait partie du lot de cette course. Oui,
mais en vous écoutant, on se rend compte que finalement, vous conservez toujours un œil sur vos camarades et néanmoins concurrents.
c'est notre passion d'abord, hein. On en a fait notre métier, mais c'est d'abord une passion. Et puis, moi, je suis un petit peu comme Kevin en ce moment, je regarde ça avec attention. J'ai pas envie d'être à leur place parce que sinon j'aurais essayé. Mais bien évidemment, ça continue de me passionner, d'essayer de comprendre ce qui se passe, et puis aussi d'essayer de vous aider à décortiquer ce qui se passe en mer. Une fois qu'ils seront arrivés à terre, ils vous raconteront et nous on s'effacera. Mais en ce moment, on peut encore un petit peu vous aider, donc on essaie de le faire.
Alors, ce qui est frappant, Michel Desjoyeux, c'est que cette année, en tout cas, visiblement, on a une course qui se termine de façon très serrée. Ça reste totalement ouvert au moment où nous parlons, nous sommes d'accord ?
Ah, c'est complètement incroyable. J'ai fait, pour pas dire trop de bêtises, j'ai récupéré les positions du matin, récupéré un fichier météo du matin, comme les marins font régulièrement, eux-mêmes, tout seuls. Et puis, j'ai fait tourner le logiciel de routage et je me retrouve avec un premier bateau qui va couper la ligne, Charlie Dalin, qui va avoir ce qu'on appelle les honneurs de la ligne. Un deuxième qui va arriver, et là on est très très chaud, quelques heures seulement, et ça va jouer à pas grand chose. Boris Herman, c'est entre 5h et 6h, donc il va prendre la place de deuxième ou la place de premier, avec ses 6h de bonification. Puis Louis Burton devrait arriver derrière, puis Maître Coq, et Maître Coq risque de le remporter. Et tout ça, c'est au conditionnel, hein, on est dans un environnement très variable, donc on va suivre ça de très près, et en tout cas, c'est extraordinaire. Et là, on parle que de ces quatre-là, mais le paquet de tête est monstrueux à l'échelle d'une course de 3 mois.
Ce qui est monstrueux, c'est que vous venez de nous donner l'arrivée.
Non, j'ai pas la boule de cristal. Attendez, oh là.
Mais je plaisante. Mais pardonnez-moi, mais a priori, quand exactement? Enfin, à une ou deux heures près.
Les premiers arrivent mercredi. Les premiers à couper la ligne arrivent mercredi soir, et ça va s'empiler dans la nuit. Là, ils arrivent en plus, les premiers sont pas très bien servis. Pour le coup, c'est un élastique dans le mauvais sens. Et ça va plutôt resserrer par derrière, d'après le prévision.
C'est un petit peu l'image du Vendée Globe. C'était ça pendant 2 mois et demi.
C'est le jeu de l'accordéon, mais vache, il y en a, ça a dû piquer les yeux quand même.
J'ai pas bien compris, Kevin Escoffier, si vous continuez à suivre tout ça avec curiosité ou s'il y a une petite souffrance de ne pas être dedans. D'ailleurs, peut-être les deux.
Mais non, mais il y a les deux, bien évidemment, comme disait Mich, on reste passionné et bien sûr que la voile m'intéresse, la régate m'intéresse. J'imagine des fois, je me dis tiens, moi j'aurais mis telle voile, j'aurais fait telle manœuvre. Et quand il y a un petit peu de souffrance, parce que forcément, même si, comme je le disais, je suis tourné vers le futur et vers les projets futurs, parce que j'ai aussi pas le choix. Mais ça, il y a des fois, forcément, il y a un petit pincement au ventre. Après, encore une fois, ça sert à rien d'imaginer ce que j'aurais pu faire, etc. Oui. Autrement que parce que par passion et par intérêt intellectuel, mais là pour moi la course est terminée, c'est fini, c'est comme ça, et de se dire tiens j'aurais peut-être pu faire tant, ou j'aurais peut-être pu faire troisième ou quatrième, ça n'a pas d'intérêt autre que de celui de se faire un petit peu de mal. Mais la course est passionnante. Encore une fois, on voit que la voile, ce qui est pas toujours simple, c'est qu'on peut mener le Vendée Globe pendant un mois et demi et ça peut revenir par derrière, et ça c'est les conditions météo qui font ça et qui font aussi que mon incident avant l'océan Indien, c'est-à-dire à peu près au niveau de Bonne-Espérance, génère encore aujourd'hui des incertitudes via les temps qui ont été accordés à ceux qui sont venus me chercher. Alors, c'est à la fois ce temps-là plus les conditions météo qui font que c'est aussi incertain.
Alors justement, Louis Baudin, c'est ce qu'il faut réexpliquer à nos auditeurs, c'est que on a un suspense réel lié à l'arrivée sur lequel vient en quelque sorte perturber tout ça le principe des bonifications. Vous nous réexpliquez comment ça marche en quelques mots?
Tout simplement, on l'a attribué effectivement aux navires qui sont venu au secours de Kevin, eh bien un certain temps qui a été calculé le plus précisément possible et le plus justement possible. Alors avant, on pourra toujours en discuter, surtout ça se joue à quelques minutes.
Oui.
Et puis effectivement, à l'arrivée, on va réattribuer ce temps à ceux qui vont pouvoir en profiter et on calculera à ce moment-là leur classement réel. Et donc effectivement, le premier sur la ligne ne sera pas forcément le vainqueur de ce Vendée Globe.
C'est normal, ces compensations, on peut trouver ça excessif, c'est choquant, enfin voilà. Je me mets à la place de celui qui arrive premier et à qui on colle les bonifications et qui se retrouve troisième, ça peut énerver.
Oui, mais enfin, au moment où il fallait sauver Kevin, et ça, c'était d'une manière absolue, c'est vrai que certains marins se sont détournés. Donc, à ce moment-là, on a mis entre parenthèses la course. Ça leur a coûté du temps, qu'on a essayé de leur restituer. Donc, non, moi, ça me paraît normal. Alors, c'est vrai que ça va donner une arrivée un petit peu particulière, mais n'oublions pas l'ensemble de la course, et notamment ce sauvetage extraordinaire.
Michel Desjoyeaux, ce sera très limité, dire qu'il n'y a personne, mais bon, au Sable d'Olonne, à l'arrivée, comment vivez-vous, je dirais, cette fin de course à la fois passionnante, magnifique, et puis le fait que le public ne pourra pas y participer et en profiter comme chaque année.
Je vais faire partie du public privé de spectacle puisque je devais y aller pour emmener des gens en mer et le décret nous l'interdit. Je voulais juste compléter un petit peu ce qu'a dit Louis sur les bonifications. C'est pas une démarche volontaire des marins de s'être déroutés. C'est une demande qui est faite par les autorités d'organisation des sauvetages. Donc c'est pas la bonne franquette. C'est moi qui suis à côté. Tout ça c'est organisé. Les marins ont quasiment l'obligation d'y aller. Va donner un coup de main à ton pote. Et c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Souvenez-vous, en 2008, l'année où moi je gagne, Samantha Davis coupe la ligne en troisième. C'est Marc Guimot qui va être classé troisième parce qu'il s'est arrêté plus longtemps sur le sauvetage de Yann Eliès. Et cette année-là, il y aura un ex-aequo à la troisième place, qui est Vincent Rioux, qui est allé récupérer Jean Le Cam. Et en récupérant Jean, il a abîmé son bateau. Oui. Il a fini par démater. Et le jury a dit, au moment où vous êtes allé porter secours à Jean Le Cam, vous étiez troisième, on vous remet troisième. Et on se retrouve avec des compensations et des ex-aequo. Sauf que ça n'avait pas touché le premier. Heureusement, c'était moi. Mais voilà, c'est des choses qui sont déjà arrivées sur le Vendée Globe. Et ça a même failli d'ailleurs arriver sur la première édition, puisque Loïc Perron s'était dérouté pour aller aider Philippe Poupon. Et sur la fin, Titouan Lamazou, qui gagne la course et coupe la ligne en premier, avait Loïc Perron qui lui soufflait un peu dans la nuque. Donc c'est des choses qui se sont déjà arrivées et ça n'a rien d'exceptionnel. C'est pas facile à vivre, surtout sur un événement aussi important, mais voilà.
Merci infiniment Michel Desjoyeaux, Kevin Escoffier, on était très heureux de vous entendre pour vivre les dernières heures de cette course. Alors on a bien compris, arriver demain soir, peut-être aux alentours de 18h, on va suivre ça encore avec passion et curiosité sur RTL. Grand merci aussi à Louis Baudin qui nous accompagne depuis le début de cette course.
C'est un plaisir.
Bah oui, je t'ai bien compris. Louis, vous restez avec nous, vous allez nous donner vos prévisions sur Terre et à 7 jours, ce sera dans un instant.
Calvi sur RTL.
8h37, notre météo, pardonnez-moi, 7 jours, et à terre, s'il vous plaît.
Et à terre, oui, d'accord, je vais revenir à terre, voilà. C'est vrai que je suis bien avec...
Ah bah j'ai bien vu que vous partiez loin, là, oui.
Ouais, non, mais revenons à terre, effectivement, avec, on l'a dit aujourd'hui, du temps sec et froid encore sur la France, mais de plus en plus nuageux au fil des heures, notamment au cours d'après-midi. Quelques pluies déjà sur la Bretagne. La nuit prochaine, on va surveiller une perturbation qui va glisser sur les frontières du Nord-Est. Alors pourquoi on va la surveiller? Parce qu'elle pourrait bien nous donner encore quelques flocons jusqu'en plaine, peut-être tout près de la frontière belge, à partir de ce soir, cette nuit, et puis demain encore, tout au long de la journée, quelques flocons entre les Ardennes, la Lorraine et l'Alsace, c'est tout. Ailleurs, eh bien, on va connaître plutôt une dégradation nuageuse et pluvieuse, qui va surtout affecter les régions de l'Ouest, et puis après le Val-de-Loire. Le Sud sera relativement épargné, des Pyrénées à la Méditerranée, un peu plus de soleil. Les températures encore basses ce matin vont en profiter pour nettement remonter l'après-midi. On atteindra les 8 à 9 degrés au moins dans la moitié nord, 10 à 15 dans le sud. Et puis on continue comme ça avec une nouvelle perturbation dans la journée de jeudi qui affectera surtout la moitié nord. Ça sera bien plus en pleine, neige en montagne, avec toujours des températures un peu au-dessus de normale de saison. En voilà une autre vendredi qui va traverser toutes les régions. Et je m'arrête sur celle de samedi, oui, qui va s'accompagner d'une véritable tempête. Là, ça semble se confirmer de jour en jour avec des vents qui dépasseront les 100 km/h sur les côtes, sur toute la façade atlantique, peut-être 80-100 km/h dans les terres avec de la pluie et de nouveau de la neige peut-être jusqu'en pleine dans la nuit de samedi à dimanche dans le nord, dimanche avec un net refroidissement, retour des gelées, des températures à peine de saison avec encore des averses de pluie ou de neige, même chose pour la journée de lundi, et puis ensuite retour de perturbations, donc on va pas manquer d'eau au cours de ces prochains jours. Alors attention encore à des risques d'inondation, oui, je pense notamment dans le sud-ouest.
C'est perturbé et ça bouge tout le temps.
Exactement.
Merci beaucoup Louis, on a donc plus que jamais besoin de vous.
RTL, vous êtes comme ça.
Toute cette semaine, RTL passe au vert. Votre radio organise la semaine verte et nous vous proposons des programmes inédits en lien avec l'écologie et l'environnement. Gros plan sur quelques-unes de vos initiatives en matière de préservation de l'environnement. Partons à la découverte d'un garage, pas comme les autres, à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, où les plus défavorisés peuvent faire réparer à moindre coût leur véhicule. Ce garage, pas comme les autres, emploie également des mécaniciens en insertion, souvent des réfugiés, dont la majorité travaillait auparavant dans la rue. Bonjour Nicolas Burnand.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors ce garage nommé Mobile Hub est situé en plein centre-ville, sur une friche industrielle, dans une ancienne usine métallurgique.
Oui, dans ce hangar, désaffecté, une dizaine de véhicules garés attendent d'être réparés. Mohamed, le chef d'atelier, installe une voiture sur un pont élévateur.
Il faut démonter la plaque, le cache moteur. Après, on vidange la boîte à vitesse. Et après, on commence à démonter le câble. Étape par étape.
Sous le moteur, en salopette, Alpha, le mécanicien, écoute attentivement les instructions. Il doit changer l'embrayage.
Oui, j'ai en train d'enlever la cache qui est en bas. Il faut changer disque plateau à l'intérieur, ça prend beaucoup de temps.
Il parle un français encore un peu hésitant, alors les deux hommes utilisent d'autres moyens pour se comprendre.
Avec les yeux, je comprends tout. Comme quoi il a besoin de la clé tout de suite, il a l'expérience. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a fait déjà la mécanique. Ça rentre dans l'autre tout de suite.
Âgé de 33 ans, Alpha était déjà mécanicien au Sénégal. Avant d'arriver en France, il y a 2 ans, il bénéficie du statut de réfugié politique. Jusque-là, il réparait des voitures dans la rue. Il a signé ici un contrat d'insertion de 4 mois.
Je vais travailler, moi je n'ai pas fait l'école. Si chaque mois je suis payé, après j'envoie ça à ma mère et mes sœurs pour permettre de vivre ma famille. À cause de mon pays, je ne dois pas rentrer là-bas. Comme maintenant, je dois vivre ici. Tout le temps, nous encourage. C'est comme si parmi nos frères.
Le garage accompagne 7 salariés au parcours parfois chaotique afin de stabiliser leur situation. Sabri est le responsable des équipes.
On va les encadrer sur leurs soucis sociaux. Il y en a qui ont des problèmes, surtout les problèmes de langue aujourd'hui. Ils ont pas mal de démarches administratives. On les aide dessus. J'ai envie de dire, c'est pas des gens à problème. C'est surtout des gens qui veulent s'en sortir et qui ont de la capacité et les compétences pour travailler, pour éventuellement aller loin dans de vrais garages et y mettre la volonté.
Aujourd'hui, Alpha, le mécanicien sénégalais, a remis le pied dans le monde du travail, espère obtenir bientôt un diplôme et pourquoi pas ouvrir son propre garage.
Nicolas, ce garage est ouvert à tous les clients qu'il souhaite, mais il propose aussi des tarifs préférentiels aux bénéficiaires de minima sociaux.
Oui, les chômeurs, les étudiants, les retraités, les personnes en situation de précarité bénéficient d'un tarif solidaire. Depuis le reconfinement, les clients défilent à l'accueil.
Bonjour, bonjour, asseyez-vous. Je vous laisse remplir la fiche d'adhésion. Je peux avoir les clés, s'il vous plaît.
Tarek, 21 ans, jeune diplômé, s'apprête à chercher un premier emploi en tant qu'ingénieur, mais la boîte à vitesse de sa voiture vient de lâcher.
J'ai vu que les prix étaient intéressants. C'est environ deux fois moins cher, hein, ici qu'un par rapport à un garage classique. J'ai pas forcément les moyens de faire ces réparations-là et certains recruteurs demandent d'avoir le permis ou alors une voiture. Parfois, il y a des chantiers, on se demande qui sont pas forcément à côté de chez nous, donc c'est essentiel pour moi qu'elles fonctionnent.
Hein. À La Courneuve, près d'un foyer sur deux se situe en dessous du seuil de pauvreté. Ce garage unique en Île-de-France répond aux besoins des habitants, explique Olivier Sclose. Ce consultant en stratégie d'entreprise est à l'origine du projet.
C'était l'idée de dire, dans les quartiers populaires, il y a des mains en or, ce sont nos mécanos, et il y a aussi des idées en or. Souvent, les populations des quartiers populaires bénéficient en dernier des innovations, quelles qu'elles soient, parce qu'elles sont coûteuses, parce qu'il y a aussi des freins. Parfois, on se dit, c'est pas pour moi, il y a des hésitations, il y a un peu de censure. Et donc, l'idée, ça a été d'amener un projet très complexe à porter, mais à la fois très innovant pour dire, c'est possible, et ça vient des quartiers populaires.
En deux ans d'existence, plus d'un millier de clients ont fait appel au service du garage. Le carnet de commandes est plein. Trois nouveaux contrats d'insertion doivent être recrutés ces prochaines semaines.
Merci beaucoup, Nicolas Burnand. Des initiatives positives comme celle-ci, on vous en présente toute la semaine dans Vous êtes comme ça, à l'occasion de la Semaine Verte sur RTL et M6. Demain, nous vous présenterons une agricultrice qui vient d'être élue Miss.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h43, il y a les marins, il y a les terriens et les autres. Rencontre ce matin avec les derniers gardiens de phare au phare de Cordouan, Isabelle Choquet.
Oui, le plus vieux phare de France, bâti entre 1584 et 1611. Un trait de pierre entre ciel et mer dans l'estuaire de la Gironde, à quelques encablures de Royan. Pour arriver là, il faut le vouloir. En hiver, c'est une vraie course contre la montre. Il y a bien le Péra, un chemin tout étroit qui conduit à la Poterne. Mais pour traverser à pied sec, il faut jongler avec les marées, toujours un peu traître. Et puis si la houle s'en mêle, on est sûr de finir à l'eau. En bateau, gare à l'île sans nom, des bancs de sable aux contours changeants. À tout moment, on risque l'échouage. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il est là, le phare, avec ses 67 mètres de haut et ses trois éclairs, blanc, rouge et vert. Bien sûr, comme tous les phares de France, Cordouan a été automatisé au début des années 2000, mais il est le seul à avoir conservé ses gardiens. Ils sont six, ils se relaient par deux toutes les semaines ou tous les 15 jours. Les binômes peuvent changer en permanence. On ne choisit pas son coloc. Il faut pouvoir s'entendre, dit Mathieu, parce que quand les visiteurs sont partis, on se retrouve à nu. Personne ne peut tricher. Lui, il est charpentier de métier. Il a choisi de travailler là pendant la mauvaise saison. Benoît, son binôme, est titulaire à l'année. Il est sculpteur à ses heures perdues. D'ailleurs, il a laissé sa marque dans le vestibule. Un poulpe de pierre plus vrai que nature. Autrefois, les gardiens classaient les phares en trois catégories. Les paradis sur les côtes, les purgatoires sur les îles et les enfers en pleine mer. C'est que les anciens passaient leur quart sous la lanterne et ils dormaient dans des petites cellules glaciales assignées à résidence pendant trois mois. Les temps ont changé, heureusement. Je peux même dire que je suis un privilégié, dit Benoît. Derrière nos murailles, on se sent plus libre qu'enfermé. On fait les choses quand on en a envie et à notre rythme. Sauf quand il faut se rendre au chevet de la lanterne et grimper en vitesse les 301 marches. Mais bon, travailler ici, c'est un choix de vie. On ne vient pas par hasard, dit Benoît, ou parce qu'on a vu de la lumière, sans jeu de mots. Parfois, tout tombe en panne. Les groupes électrogènes, les systèmes de pompage, la chaudière, l'électronique. Il faut être prêt à se comporter comme à bord d'un navire. En fait, la vie dans un phare en mer, c'est celle d'un bateau de pierre. De fait, le parfum du phare rappelle l'entrepont d'un navire, un mélange de sel, de rouille, d'embrun et d'effluves de gasoil, avec en plus l'odeur du calcaire mouillé. Avant d'arriver là, Benoît a été surfeur amateur, plongeur, électricien. Il a travaillé à la criée, restauré une vieille digue. « Je suis tombé amoureux de Cordouan », dit-il. Quand les vagues poussées par la marée commencent à effleurer l'escalier et que la mer enserre le bâtiment, en une demi-heure, il n'y a plus que de l'eau autour de nous, à perte de vue. On ressent alors un immense sentiment de plénitude. Le plus dur, finalement, c'est parfois de rentrer chez soi. Le premier jour à terre, on a l'impression d'être le spectateur de sa propre vie. Garder Cordouan, c'est aussi veiller sur un joyau. La tour ressemble plus à un palais qu'à un phare. Du marbre, des boiseries, des statues et au premier étage, l'appartement du roi créé pour Louis XIV qui n'y a jamais dormi. Avec le temps, le Versailles des mers a souffert, lessivé par les tempêtes, mais il rêve d'une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors depuis 2005, il est en travaux et certains rêvent d'y trouver la sépulture de Louis de Foix. Selon la légende, l'architecte aurait été inhumé ici en secret comme un éternel gardien. Dans les embruns de Cordouan, c'est un grand et beau reportage à lire dans le Figaro magazine.
Je retiens cette phrase, la vie dans un phare en mer, c'est celle d'un bateau de pierre.
C'est très joli.
Merci beaucoup Isabelle Choquet, merci à vous de nous être fidèles. Il est 8h46, dans un instant, un autre fidèle, Laurent Gérard.
Jusqu'à
jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
8h49, bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour mademoiselle.
Bonjour monsieur Calvi. Bonjour tout le monde. Depuis quelques jours, Brigitte Macron est très présente dans les médias pour promouvoir la campagne 2021 des pièces jaunes qu'elle préside, vous le savez, qui est parrainée par Didier Deschamps. On file à l'Élysée voir comment tout ça se passe.
Brigitte, tu as fait un tabac cette année avec les pièces jaunes. On te voit partout à la télé. Oui, mais à cause de cette surexposition mégalithique, les journalistes ont découvert que je zozotais. Ça m'apprendra à trop parler. Mais je te jure que tu zozotes jamais, Brigitte. Personne ne zozote dans la famille. Pas vrai, Didier Deschamps ?
Bien, je dirais que le cheveu que j'ai sur la langue ne me dérange pas le collectif. À partir de là, tout est possible.
Tiens, tu vois, même Didier Deschamps l'a remarqué.
Eh bien, je dirais que pour ne pas le remarquer, il faudrait être sourd et à partir de là, tout est possible.
Oh, vraiment, il a l'art du commentaire, celui-là. Et puis, en plus, cette année, il n'y a pas de piège jaune à compter, tout est dématérialisé. J'y comprends rien dans les comptes, ça doit être les séquelles de ma Covid. Je vais demander à OK Goglet de m'aider. Oui. OK Goglet, calcule-moi les profits.
D'accord, Brigitte, j'appelle Carla Bruni.
Pronto? Qui a al telefono?
Bonjour Carla Bruni, c'est Brigitte Macron. Entre première dame, on peut se comprendre. Figurez-vous que tout le monde se moque de mon zozotement.
Mais Brigitte, il ne faut pas les écouter. Non. Pendant que votre mari travaille, vous devriez faire un disque, comme moi. Ça passe le temps.
Ah oui, tiens, c'est pas mal ça, un disque. Je ferai moins Bernadette Chirac que les fièges jaunes, au moins.
Mais oui, Brigitte, je pourrais vous écrire una canzone, si vous voulez. Très, quattro. On dit qu'une première dame, ça ne vaut pas grand-chose, que ça ne sert à rien qu'arroser les roses.
On me dit que les pièges jaunes, c'est bon pour mon mari, que si j'en ramasse plein, il aura moins d'ennui.
Pourtant, quelqu'un m'a dit que ça faisait potiche.
C'est quelqu'un qui m'a dit que ça faisait potiche. Ça reste possible alors.
C'est merveilleux.
Merci. Didier Raoult, le sosie officiel de Patrick Sébastien en région PACA,
oui,
a avoué la semaine dernière que l'hydroxychloroquine ne permettait pas de réduire la mortalité Covid-19.
Salut, putain.
Bonjour Didier Raoult. C'est bien de reconnaître votre erreur.
Attends, je t'arrête tout de suite. Je reconnais que ça n'empêche pas la mortalité dans les cas graves, mais ça réduit la maladie dans les cas moins graves.
Donc, vous continuez de recommander ce traitement?
Ouais. C'est comme mon étude qui démontrait qu'on peut soigner la maladie de Parkinson en buvant un pastis 3 fois par jour. Ben en fait, ça marche pas, j'avoue. Mais puisqu'un pastis, ça veut pas faire de mal, je continue de prescrire ce traitement.
Je vois. En fait, on vous reproche surtout de ne pas faire des études assez poussées pour vos traitements.
Quelles études? C'est sûr que j'ai pas fait l'ENA comme ces fanas de la capitale qui veulent nous injecter de la 5G avec leur vaccin pour contrôler nos compteurs Linky à distance depuis Bruxelles. Moi, je suis un médecin de terrain, peu cher. C'est que de l'amour, le terrain.
Oui, je n'en doute pas. Mais est-ce que vous avez déjà trouvé un remède qui marche, en fait?
Ouais. Notamment contre la constipation. Mon remède est imparable. Efficacité garantie.
Bon, mais quel est ce remède?
Si vous êtes constipé, regardez une conférence de presse de Jean Castex. Dans 100% des cas, ça va vous faire bien chier, peu cher. Demandez à Benjamin Castaldi. Il l'a suivi pendant un mois, il a déjà perdu 13 kilos.
Le parquet national financier vient d'ouvrir une nouvelle enquête visant Nicolas Sarkozy pour trafic d'influence auprès d'un groupe d'assurance russe. Bonjour Nicolas Sarkozy.
Bonjour.
Comment vivez-vous ce énième tracas judiciaire?
Attendez. J'ai mon classeur avec la liste des affaires judiciaires que je suis impliqué dedans.
Ah.
Faut pas que je me mélange. Alors là, c'est sur quoi que vous m'interrogez au sujet de?
Sur l'enquête ouverte pour des conseils que vous donnez à une compagnie d'assurance en Russie.
D'accord. Alors voyons. Les affaires que je suis poursuivi dedans à la lettre R. Rappel de cotisation, refus de priorité à droite, renvoi d'ascenseur, raccourcissement des moustaches à Louis Plenel. Ah, voilà. Russie. Allez, je vous écoute, j'ai le dossier.
Alors, eh bien, selon les révélations de Mediapart, on enquête sur vous parce que vous avez conseillé pour leur compagnie d'assurance deux frères russes, Sergueï et Nikolaï Sarkisov.
Non mais attendez,
La plaisanterie.
Voilà, même M. Calvi paraît étonné. Oui. Je vous arrête tout de suite. Soyons sérieux, mademoiselle Jeanne. Mmh. Moi, Nicolas Sarkozy, mmh. j'aurais conseillé un certain Nicolas Sarkisov. Nicolas Sarkisov.
Pourquoi pas Nikolavitch Sarkovici, et puis pourquoi pas aussi sa femme pendant qu'on y est, Carla Vitska Bruniskaya, qui chante « Il y a quelqu'un ski qui m'a dit ski, Kalinka Kaline ». Non mais... non, tout ça, vous voyez bien que c'est du goulash de médisance avec des bouts de vengeance de magistrat dedans. Oh.
On parle pourtant d'honoraires importants que vous auriez touchés pour aider les frères Sarkisov. Mais...
Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Non
oui.
Mais... les frères Karamazov, oui. S'ils trouvent que je suis trop cher, ils ont qu'à demander un devis à la Matmutov. Non mais... ok. Mademoiselle Jeanne,
oui.
ce qui me désole, c'est oui. que pendant qu'on parle de mes affaires en Russie, mm. on dit pas comme quoi que mon livre Le Temps des Tempêtes, il est numéro un.
Ah, désolé de vous contredire, mais il y a un petit moment où vous n'êtes plus numéro un du tout.
Hein. Ah oui, c'est encore les Russes, vous allez me dire, non? Moi je vous dis, et les livres audio, qu'est-ce
oui.
que vous en faites?
Ah, oui,
c'est fait pour les sourds, les livres audio? Eh bien, Le Temps des Tempêtes, lu par André Dussolier qui fait des bruits de bouche. Il est numéro un. Et je vous le garantis que hein, ça déménage. Hein. Et c'est bien simple. Je...
Oui.
Non, mais c'est
de la censure.
Le parquet qui veut pas que je tue ma femme. Il y a encore des Russes là-dedans. Alors justement,
allez-y.
Mon livre qui déménage, c'est bien ça. Je vais l'envoyer au parquet financier. Vu qu'ils passent leur temps à m'écouter, ça devrait pas trop les changer. Bonjour.
Ah, Pascal Pro, vous n'êtes pas en direct sur CNews pour votre émission L'heure des pros?
Dans 5 petites minutes, je m'apprête à lâcher les fauves pour exciter Yvan Rioufol et Elisabeth Lévy. Je leur ai montré une photo de Rokhaya Diallo. On va bien s'amuser.
Et Laurent Geoffrin n'est pas avec vous ce matin?
Si, je lui ai réservé un beau costume, du goudron et des plumes.
Très bien. Parlez-nous plutôt du sommaire des auditeurs ont la parole tout à l'heure sur RTL, s'il vous plaît.
Beaucoup, beaucoup de questions au 3210. D'abord oui. celle-là. La natalité a baissé en France. Doit-on s'en réjouir? Après tout, moins d'enfants, ça veut dire moins d'oreilles cassées dans les TGV. J'attends, qui ne marche pas d'ailleurs, j'attends vos réactions au 3210.
Bon, autre chose Pascal, peut-être.
Oui, la mortalité a augmenté en France de 7%, mais est-ce dû au Covid-19 ou une vague de suicides correspondant à l'écoute du dernier album de Camélia Jordana? Je pose la question au 3210.
Bon, bah écoutez, merci Pascal, on avance.
C'est pas fini. Camélia oui. Jordana, qui nous fait toujours des déclarations magnifiques chaque semaine. Camélia Jordana, toujours, a déclaré que les hommes blancs étaient responsables dans l'inconscient collectif de tous les maux de la Terre. Dans leur tombe, Pol Pot, Amin Dada et Oussama Ben Laden ont-ils éclaté de rire? Je pose la question au 3210.
Eh bien, merci Pascal.
Bon, j'ai pas fini.
Ah, non.
Pour changer, Camélia Jordana, encore elle, a critiqué Brigitte Bardot et Catherine Deneuve en leur reprochant d'être anti-féministes.
Ah.
Ce à quoi ces deux icônes auraient répondu « Mais qui est Camélia Jordana ?»
Alors,
j'ai une
bonne...
autre petite question.
Ah oui,
oui.
3210, que j'ai oublié, car aujourd'hui nous fêtons l'anniversaire de Stéphane Rose, de nos brillants auteurs.
Qu'on embrasse vivement.
Nous avons une formule. Bon anniversaire, Stéphane Rose. Voilà.
Pensez-vous qu'il va se faire souffler sur la bougie? Je pose la question au 3210.
Rien n'est moins sûr.
Aucun commentaire, n'est-ce pas? Et on se retrouve demain matin, parce que moi je veux garder un tout petit peu de temps pour mon Cyril Lignac qui était avec nous.
Bah oui.
Allez, on vous embrasse,
oui,
à demain.
On embrasse Cyril.
RTL Matin, Yves Calvi.
Cyril Lignac, bonjour.
Bonjour.
Hélène Vialil, elle souhaiterait connaître votre meilleure recette de pain à burger, vous savez, les fameux buns. Elle les aime moelleux, s'il vous plaît.
Eh bien, alors, c'est une super recette. Alors, pour les avoir moelleux, il faut bien les levurer. Donc, on prend 300 g de farine, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre.
Oui.
Il y a toujours un peu de sucre parce que c'est très doux et délicat d'ailleurs, et très moelleux. On émiette à l'intérieur 20 g de levure qu'on demande au boulanger. Si on n'a pas les 20 g de levure du boulanger, on a des levures en sachet. On met 4 cuillères à café de levure sèche. Ensuite, on verse une cuillère de lait et on pétrit. Et donc, en fait, on va avoir cette pâte un peu briochée. Oui. Et ensuite, pendant qu'on pétrit, on ajoute du beurre frais. Alors, beurre frais ou beurre demi-sel, comme on veut. Et ensuite, on pétrit bien, ça va nous donner comme une pâte à brioche. On la laisse pousser pendant une heure dans la cuisine, où on peut ouvrir un peu la porte du four et la poser dessus. Une fois que ça a bien monté, on y a mis, bien entendu, un torchon humide.
Ah oui.
On dégaze, on fait des petites boules d'environ 120 grammes. Et là, ensuite, on les laisse un tout petit peu repousser et on les cuit à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Bien entendu, avant, on les dore et on met un petit peu de sésame blanc. On cuit 20 minutes au four et on a quelque chose d'hyper moelleux, une recette hyper simple.
Vous avez été synthétique et c'était formidable. Merci Cyril.
Merci.